Bien, avec votre permission, on va débuter cet après-midi donc à l'initiative du réseau Créativité et Territoire. Donc merci à toutes et tous d'être là. Alors quelques petits points. D'abord, la configuration de la salle. Excusez-nous, il y a des gens à la tribune, il y a des gens dans la salle et la tribune et la salle, donc vous comprendrez que pour nous c'est un collectif de discussion, a fortiori parce que dans la petite guérite qui est derrière vous, nous avons notre ami Frédéric qui va vous enregistrer, et tout ça, ça va être mis en ligne sur le site de l'espace Mendès France. Donc ce que nous allons nous raconter aujourd'hui autour des questions de créativité et de territoire, et plus précisément des tendances qui sont en train d'émerger, ou des émergences qui deviennent des tendances, on ne sait plus trop maintenant, bref, on a besoin des contributions de tout un chacun. Alors, juste d'un mot pour rappeler ce que l'espace Mendès France fait dans cette proposition générale, hein, c'est pas une galère, dans cette proposition générale, c'est finalement suivre le... quelque part, puisqu'on fête nos 25 ans, suivre l'esprit général dans lequel les initiateurs de cette maison ont, il y a une trentaine d'années, imaginé qu'un pôle de diffusion de la culture scientifique pouvait faire œuvre utile, bien sûr en termes d'éducation, hein, tout le monde nous attend sur l'éducation, mais également sur une mise sur la scène publique d'un certain nombre de grands débats de société où science et technologie ont une place primordiale. Depuis tout le temps, nous, on a toujours souhaité que les débats soient organisés collectivement et que la question de la connaissance académique et de la connaissance dite populaire, vernaculaire, soit hiérarchisée de telle manière que c'est la qualité et l'excellence des propos qui priment plutôt que la hiérarchie de compétences soi-disant installées dans notre espace par l'académique et le non-académique. Donc on est entre l'éducation et l'éducation populaire, mais dans une version un petit peu modernisée, et surtout, puisque vous le savez, notre ami Edgar Morin est souvent dans cette salle pour essayer de casser les cloisons, de sortir des silos et de ne pas parler de transversalité sur des discours méthodologiques, épistémologiques, même s'il y en a besoin de temps en temps, mais surtout de le mettre en œuvre et de le mettre en projet. Donc l'espace Mendès France, ici à Poitiers, a ce travail permanent en termes de programmation. Je vous rappelle que c'est pratiquement 55 à 60 000 personnes chaque année maintenant dans cette maison. La plateforme régionale de l'espace Mendès France, c'est en 2013 pratiquement 55 000 personnes dans 400 lieux différents. Nous sommes sortis dans 1600 classes. Ça devient énorme. Hein. Quand je suis arrivé ici à l'espace Mendès France, c'était aucune sortie, pas de sortie régionale, et c'était 15 000 personnes par an. Donc on voit bien que derrière, au-delà de la dynamique quantitative, on voit bien qu'il y a une appétence de nos concitoyens pour cette question de la connaissance, et en particulier une recherche de sens. Comment est-ce qu'on peut relier tout ça? Donc cette maison, année après année, fait ce travail. Nous sommes dans une maison laïque, mais qu'on pourrait dire de bénédictin, permanent, régulier, récurrent, où, bien sûr, au cœur de la démarche, la méthodologie scientifique est présente. On observe, on confronte. Éventuellement, on crée à travers ces confrontations des débats, on suscite le regard sur certains éléments polémiques. On n'est pas BA techno ou techno BA. On a fait ici des débats extrêmement fructueux sur les questions des nanotechnologies voici 2 ans. Donc, pour vous dire simplement que quand notre ami Jackie Deniol a lancé l'idée de faire atterrir cette petite chose évanescente que pourrait être la créativité et les territoires sur un processus beaucoup plus stabilisé, tout en conservant le buissonnement et le foisonnement des idées, la maison a répondu présent, bien entendu, mais en essayant de voir comment est-ce que dans l'état général des incohérences, des incertitudes de nos sociétés actuelles, on pouvait mettre en place ce collectif dans une vision claire. Alors, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. On vient de finir pour la deuxième fois une exposition sur le cerveau. Et en fait, on voit à quel point le cerveau droit et le cerveau gauche, le rationnel et l'intuitif, ou le sentimental et le direct, directifs ont été séparés. Et là aussi, c'est pareil, il faut qu'on arrive à trouver des modes de médiation qui permettent de lier les choses. Et je crois que dans cette salle qui s'appelle Confluence, depuis pas mal de temps, il s'est passé tout ça. Donc aujourd'hui, la question des tendances, des émergences, des idées nouvelles avec nos intervenants vont nous permettre bien sûr de regarder ce qui se passe dans l'instant, mais surtout de trouver quelques clés qui permettent d'échapper aux diktats de l'instant et d'essayer de se mettre en perspective. On pourrait citer une dizaine de mots-clés qui sont sortis dans les médias depuis 5 ans et qui ont complètement disparu, dont plus personne ne parle. Pour autant, il y a des choses qui commencent à se stabiliser et on voit arriver un certain nombre d'éléments. Ou peut-être que plus on va vers le numérique et l'immatériel, plus le besoin de convivialité, au sens vraiment générique du terme, de rencontre et de confrontation vivante va être important. Donc, voir si ces tendances telles que vous allez pouvoir en discuter aujourd'hui avec nos intervenants sont finalement l'émergence d'un nouveau mode de vivre ensemble et puis peut-être vers de nouvelles façons de faire société dans notre monde actuel. Donc ce propos qui paraît un peu éloigné comme ça du quotidien, pour nous il doit à un moment ou à un autre nous permettre de structurer une démarche, une pensée opérationnelle. Quand on va voir des élus locaux, des responsables d'associations ou des responsables d'entreprises, qu'on commence à le faire dans cet établissement, il faut qu'on arrive à allier cette idée générale, cette vision qu'on peut avoir d'un horizon à 10, 15 ans avec la possibilité de le concrétiser. Donc la maison n'oublie jamais de mettre en outil tout ça, d'observer les outils mis en place et de boucler. Donc les rendez-vous pour nous, ils sont jalonnés sur 2014 avec quelques éléments comme ça d'expression. En particulier, je citais une journée que nous sommes en train de concocter et qui, autour du changement climatique, va permettre de demander à un certain nombre de politiques nationaux de leur poser la question, finalement, est-ce que tout le monde s'en fout ? C'est tout simplement par rapport à des éléments d'actualité, de savoir ce qu'il a été fait de cet impact que le changement climatique, le GIEC, etc., a pu avoir à un moment. Nous sommes en train de préparer pour le mois de novembre une série de manifestations autour de films documentaires. Et en fait, la recherche qu'on vient de faire montre que depuis 2008, il n'y a pas un seul film documentaire qui a été produit sur le changement climatique. Il y en a eu plus de 300 entre 2000 et 2008. Voilà. Donc c'est une illustration extrêmement simple des choses. Donc l'idée, c'est de mettre en débat tout ça. Un rendez-vous important du réseau, et Jackie en reparlera sûrement, c'est au mois d'octobre, ce qui va devenir vraisemblablement un rendez-vous attendu de tout le monde dans le réseau. On va avoir des étrangers pour la première fois, Amérique du Nord et Amérique du Sud, qui vont venir nous rejoindre. C'est les journées d'automne de la créativité des territoires qui auront lieu dans cet établissement. Jeudi et vendredi, 23 et 24 octobre. Donc maintenant, on a un rendez-vous un petit peu précis qui se fait, qui permettra peut-être de lancer un cycle dans d'autres pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc vous dire que tout ça s'inscrit dans un contexte, c'est pas one shot, c'est pas vous voir dans la salle, même s'il y a un certain nombre de visages amicaux qu'on commence à voir et qui nous permettent de tisser une réflexion autour de tout ça. Donc moi, je suis content qu'aujourd'hui, on ait un certain nombre d'intervenants qui rappent, qui disent des choses différentes, qui soient présents à la tribune. C'est pas pour le plaisir, c'est pas l'art pour l'art, hein, c'est pas être iconoclaste pour le plaisir d'être iconoclaste, mais c'est pour faire avancer les choses et donner du grain à moudre, que vous puissiez vous revenir dans vos contrées et à travers vos blogs et autres supports pouvoir susciter une réflexion féconde dans des têtes un peu formatées, des têtes un peu conformistes ou convenues, peu importe, mais les nôtres aussi hein, d'ailleurs, et d'essayer de changer nos façons de penser pour changer nos façons de faire. Donc l'espace Pendes France sera aux côtés de cette démarche dans les temps qui vont venir. Les politiques ne sont pas très au rendez-vous, alors je le dis puisque je sais que c'est enregistré, donc entendre qui pourra, sont pas très au rendez-vous. Alors changement climatique, tout le monde s'en fout, créativité et valeur dans les territoires, 2 points, parce que tout le monde s'en fout, on va voir ça dans les jours qui viennent. Toujours est-il que je vais passer la parole à Jackie, vous êtes les bienvenus, c'est le début d'une aventure je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, y compris des réponses que j'ai eues de certains amis donc d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud qu'on va inviter. Et puis je voulais remercier par la même occasion donc Jackie qui va prendre le micro, mais qui prend le micro déjà depuis un moment, et le remercier de sa capacité, de son aptitude à mobiliser des non-conformistes. Merci Jackie, bon après-midi en tout cas.
Merci Didier. Donc je vais pas être trop long. Je vais simplement effectivement insister sur les journées d'automne, les prochaines journées d'automne. Donc si vous avez des idées aussi pour d'exemples d'intervention, mais déjà dans la salle il y a des gens qui prennent des initiatives. Je pense à ce que fait Alexis, a commencé à faire Alexis dans un bar culturel improbable à Vénéran, commune de combien, 600 habitants près de Sainte. 200 même, voilà. Mercredi dernier, où nous étions une trentaine autour de Terre Créative en Charente, et tu vas lancer Terre Créative en Charente-Maritime, pourquoi pas dans Deux-Sèvres, pourquoi pas dans la Vienne, voilà. Et tout ça fait partie du même, de la même confluence, si j'ose dire. Et puis, je remercie aussi Jean-Yves Pinault de sa présence en tant que directeur du collectif Ville-Campagne. Je crois que, justement, tout le monde dans la salle aura des choses à dire. Hein. Michel Richard, philosophe, la philosophie peut aussi nous éclairer. Le blog Coccinelle, enfin, tout le monde pourra intervenir. Comme l'a dit Didier, il n'y a pas simplement que les intervenants dans l'estrade. Donc, je ne vais pas être plus long. Simplement, je vais passer la parole d'abord à Thierry Cosse, peut-être. Alors, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir dans l'émission C'est dans l'air. Je crois que tu es passé deux, trois fois. Et puis, tu interviens aussi, tu nous as dit tout à l'heure sur Europe 1, c'est ça? Non, je me trompe? Donc, voilà, bon, bah, écoute, déjà, voilà, bon, eh bien, écoute, à toi de parler, de te présenter et puis d'intervenir sur le sujet que tu connais bien, qui est le lobbying et qui nous intéresse.
Bien, bien, merci. Merci de m'accueillir ici et merci d'éventuellement me supporter, mais ça sera court puisque l'intérêt c'est quand même d'avoir un débat. C'est vrai que je suis lobbyiste, donc on parlait tout à l'heure et tu parlais des nouveaux moyens. Moi je défends le deuxième plus vieux métier du monde, qui s'est souvent confondu avec le premier. Donc, vous voyez, c'est pas très moderne ce que je vais vous dire, mais dans les médias, on en parle de plus en plus. Donc, tous les jours, vous voyez, on parle de lobby. Alors, avant le lobbying, en matière d'influence, c'est vrai que c'était le monopole des riches, le monopole des patrons du CAC 40, le monopole des gens qui avaient beaucoup de moyens, soit pour payer des gens comme moi, mais surtout beaucoup de moyens pour influencer les dirigeants politiques, des responsables publics, nationaux, européens, planétaires, et qui pesaient dans un rapport de force qui était souvent un rapport d'argent et d'intérêt. Et heureusement, ça, c'était le deuxième plus vieux métier du monde. Mais maintenant, le lobbying est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus démocratique, parce que justement, on arrive dans une nouvelle ère et qui est assez passionnante pour ça. Maintenant, le lobbying, et vous pouvez le voir toutes les semaines, vous découvrez que les religions, les groupes religieux, les sectes font du lobbying. On l'a vu. Dans toutes les manifestations de ces derniers temps, on découvre qu'il y a des organisations bâties sur des réseaux sociaux qui ont une seule fonction, c'est faire du lobbying. C'est peser dans le débat public en ayant la finesse de faire feu de tout bois. Je parlerai de ce qu'est faire feu de tout bois, ce qu'est réellement le lobbying, pour que vous le découvriez tel qu'il est. C'est pas très drôle, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment vous êtes manipulé tous les jours, quand même. Ça me paraît évident. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fini cette ère du lobbying dans une version industrielle riche, parce que même les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, c'est normal, ils étaient habitués à ça depuis longtemps, au CAC 40. Mais les syndicats de salariés ne font pas que de la revendication. Ils ont compris qu'il fallait changer les règles du jeu. Ils ont compris qu'il fallait changer les lois ou les règlements, ou que le rapport de force ne se faisait pas seulement dans la rue, ou parfois la rue n'est qu'un moment pour changer des règles qui sont des règles durables et qui sont des règles qui n'ont pas tout à fait à voir seulement avec les conditions de travail ou l'encadrement salarial. Donc on découvre qu'aujourd'hui, la CGT fait des amendements clés en main fournis aux parlementaires comme les patrons du CAC 40. Et ça choque pour l'un, ça ne dérange pas pour l'autre. Dans le même univers, vous voyez que les ONG ont parfaitement compris, les ONG de consommateurs, les ONG environnementalistes, les Greenpeace et compagnie, ont complètement compris qu'il fallait, pour influencer, il n'y avait pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'argent, quoique pour Greenpeace, il y en ait beaucoup et qu'on ne sache pas d'où ils viennent. Mais ça, les fondations américaines sont un peu floues, donc on a quelques difficultés à le faire. C'est pareil pour la protection animale. Ce sont des gens extrêmement riches qui viennent des États-Unis parce que les fondations américaines financent énormément de choses sur l'ensemble de la planète. Je vous rassure, la CIA aussi, hein. Il faut bien aussi qu'ils fassent un peu de lobbying pour défendre leurs propres intérêts et parfois défendre leur image. Mais l'idée, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a un accès facile à l'influence, parce que les règles de l'influence ont changé. Et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, je ne parle pas seulement des nouveaux outils qui peuvent être très utiles pour les mobilisations, etc. Mais je parle surtout du fait qu'on a enfin compris que pour faire changer d'avis, il fallait pas nécessairement avoir d'énormes moyens, mais qu'il fallait savoir gérer les circonstances. Il fallait savoir gérer le temps, l'instant, l'émotion, et que ça valait parfois pas cher, mais que c'était redoutablement efficace. Un des premiers à l'avoir fait, même s'ils ont des moyens par ailleurs, c'est Greenpeace. La culture du commando, c'est quand même mieux que de mettre 200 000 personnes dans les rues. C'est beau, c'est compliqué pour une ONG qui n'a pas de base de mettre 200 000 personnes dans la rue, et c'est pas celui qui a acheté le dauphin en plus qui va descendre dans la rue, même s'il contribue au développement. Ça veut dire qu'on a compris depuis un certain nombre d'années, et un certain nombre d'organisations, ONG notamment, ou sectes, ou mafias, ont compris qu'il fallait travailler sur ce qui n'était pas leur fonds de commerce réel, mais la périphérie. Comment influencer les politiques et l'opinion publique dans des périodes où l'émotion est roi, où l'éphémère est valorisé, et donc on peut occuper une place alors qu'on ne pèse pas, qu'on ne représente rien, ou pire que ça, qu'on est considéré comme dangereux pour la démocratie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On découvre que énormément d'organisations ont complètement intégré le lobbying alors qu'elles étaient dans des démarches beaucoup plus classiques, beaucoup plus claniques, pour parler entre eux et se fédérer entre eux, et de temps en temps réussir à taper du poing sur la table à l'occasion d'un événement. Mais la culture Greenpeace est devenue un bon modèle, mais les associations de protection animale ont fait la même chose, maintenant les associations de consommateurs aussi. On utilise le spectacle, on utilise le people. Quand vous n'êtes pas nombreux, moi je connais des organisations qui ont moins de 1000 membres et qui sont très connues sur la place publique parce qu'elles ont un scientifique de haut niveau, un astrologue, un Hubert Reeve et compagnie, qui parle, un Nicolas Hulot. Regardez Nicolas Hulot, un animateur de TF1. C'est quand même quelqu'un de connu, qui a fait des choses plutôt brillantes à la télévision. Je m'arrêterai à ce qu'il a fait de brillant, donc c'est à la télévision. Et il a fait connaître et découvrir la planète dans les choses les plus sympathiques. Et en même temps, je pense qu'il a été un vrai tireur d'alarme. Et il a interpellé des gens qui, au fin fond de leur campagne ou de leur ville, se sont dit « Ah merde, la planète, c'est autre chose ». Donc, il ne faut pas critiquer ça. Mais ce que je regarde, c'est que derrière, parce qu'il est militant, parce qu'il a une fondation où il y a moins de 200 personnes, dont la plupart sont des industriels pollueurs, mais il est un people. Et parce qu'il est un people, il est utilisé par d'autres organisations, par d'autres collectifs, et ça marche. Donc il faut reconnaître que c'est le poids aujourd'hui de l'influence sur l'opinion publique ou sur les politiques, ou sur les deux, je sépare quand même les choses, peut être construite sur de nouveaux moyens d'influer, et en utilisant des people ou en utilisant l'actualité, en utilisant l'instant, en étant malin sur l'instant. Alors que dans beaucoup de cas, on avait une méthode très planificatrice de la revendication, qu'on soit ONG ou syndicat, ou patronal ou salarié, et qu'on essayait de dérouler avec des réseaux bâtis dans le temps, dans la durée. Aujourd'hui, vous pouvez gérer l'instant. Alors, c'est éphémère, mais si vous êtes malin, ou si vous avez les moyens, ça peut devenir durable. On installe un système qui n'est pas visible. L'influence, c'est 90% immergés, 10% émergés. Le principe, c'est pas de communiquer. Le principe, c'est d'agir. La communication n'est qu'un modeste instrument qui doit être peu utilisé ou concentré sur quelques personnes. On le voit avec les people, mais on le voit, regardez, dans les manifestations, la personnalisation des leaders des manifestations, c'est une vraie stratégie d'influence. Et parfois, tout d'un coup, vous vous y perdez parce que il y a un côté assez éphémère. Les leaders passent et disparaissent. Hein, mais parce qu'il y a derrière quelques gens bien organisés, je vous rassure, ils sont pas très nombreux, mais qui ont une vraie culture du lobbying et qui savent qu'il faut bâtir une stratégie qui est très discrète, avoir des porteurs médias, qu'ils soient éphémères ou non, et comme ça, on peut continuer à peser dans le débat public. Et ça, c'est assez intéressant de voir cette évolution parce qu'elle est les nouveaux moyens de communication offrent une efficacité encore plus grande. Je ne dis pas nécessairement dans la durée, mais à défaut, dans la possibilité d'ouvrir des débats là où il était impossible de les ouvrir quand on n'avait pas les moyens ou quand on n'avait pas le soutien d'un maximum d'élus. Donc on rentre dans une période assez intéressante pour ça. L'inconvénient, c'est que maintenant que le lobbying est offert à n'importe qui, il va être utilisé par n'importe qui. Il est utilisé par des groupes qui veulent défendre l'intérêt général, mais qui n'arrivent pas à parler. J'en ai cité quelques-uns. Mais il est aussi utilisé par des sectes religieuses. Il est utilisé par les mafias. Et il est utilisé par des gens qui n'ont pas nécessairement une grande estime pour la démocratie, mais qui veulent défendre des intérêts. Alors, le lobbying, c'est quoi? C'est l'art et la manière d'influencer, non pas son prochain, parce que sinon je m'arrêterai à la religion, mais c'est l'art et la manière d'influencer les dirigeants ou l'opinion publique. Et pour ça, il faut bâtir des stratégies dans la durée, et les stratégies à tête multiple. Pendant longtemps, on a pensé que le lobbying, c'était du juridique. C'est-à-dire, puisque vous modifiez des lois et des règlements, il faut être avocat et vous allez changer la donne avec un rapport qui est un rapport de contentieux ou de plaidoiries. D'autres ont pensé que le lobbying, c'était de la com. Ici, on parlait d'entreprise, c'était du marketing. Alors que, en fait, le lobbying, la méthode pour influencer les individus, elle est, moi je dis toujours, je suis un chef d'orchestre qui ne joue d'aucun instrument, mais qui en utilise beaucoup. Parce que si le violon et le pipeau peuvent être utiles pour moi, je pense que la grosse caisse est aussi très utile. C'est-à-dire que on peut faire des tas de choses en ayant des discussions intelligentes entre gens de bonne compagnie avec des arguments solides. Quand on rencontre des responsables, des leaders politiques au niveau national ou européen. Et on peut aussi penser que pour bien négocier, il faut d'abord avoir beaucoup enquêté. Moi, je dis espionné parce que c'est beaucoup plus vrai. Et une fois que vous avez bien espionné et que vous sachez, vous pouvez savoir qui fait quoi, qui pense quoi, vous pouvez bâtir une stratégie qui consiste à séduire certains, à inquiéter d'autres, à menacer d'autres ou à polémiquer avec les derniers. Donc l'influence, c'est ça aujourd'hui. C'est pas juste j'ai de bons arguments et je les fais valoir, c'est je maîtrise l'instant, les gens qui sont en face de moi. Moi, je connais beaucoup mieux les ennemis de mes clients que mes propres clients. Parce que mon métier, c'est d'être parachuté de l'autre côté des lignes ennemies, d'infiltrer tout ça. C'est un spécialiste de l'infiltration des groupes de pression, des opposants, ONG, syndicats. Oh, pardon, je vais arrêter parce qu'après, vous ne voulez plus m'entendre. Hein. Et le principe de base, c'est de bien connaître ceux qui sont en face. Vous passez plus de temps et d'énergie à ça. Ensuite, il faut trouver des porte-paroles. Et les porte-paroles, il faut les utiliser de façon très diversifiée. Quand ils sont dans le camp de vos adversaires, ils sont beaucoup plus efficaces que quand ils sont dans le camp de vos amis. Donc le boulot, c'est ça. Et le drame, c'est que dans tout ce que vous lisez au quotidien, hélas, le lobbying est partout. Dans tous les secteurs, vous voyez qu'il y a une masse importante d'informations qui n'est pas de l'information réelle et sérieuse, qui est une petite part d'information et une grande part de manipulation. Moi, lorsque je dois présenter brièvement à la radio ou à la télévision mon métier, je dis que je fais de l'espionnage et de la manipulation. C'est pas très cool quand même. Mais ça veut dire, dans la réalité, que je parle toujours de faits réels, mais je les tronçonne, je les découpe pour qu'ils deviennent digestes. Parce que comme nous n'avons plus de mémoire, c'est tellement facile de tromper les gens. On n'a pas d'histoire, on n'a plus d'histoire. On peut parler de la Crimée, on peut parler de tout ce que vous voulez d'actualité ou du dictaphone de Patrick Buisson. Le pauvre, il n'avait pas assez de mémoire, donc il avait un dictaphone. On voit bien que aujourd'hui, tout est sur l'émotion, tout est sur l'instant, et on oublie juste les faits. Moi, dans mon métier, qui est quand même de faire changer des rapports de force économique, qui est de faire changer des lois ou des règlements pour que les choses puissent s'appliquer à l'ensemble des citoyens ou à l'ensemble des industriels ou à l'ensemble de l'Union européenne, quand on fait du lobbying au Parlement européen, c'est sûr qu'on ne va pas mentir tout le temps et on ne va pas tromper tout le monde. Mais quand même, le sujet est que vous pouvez mobiliser l'opinion publique de façon importante, qui elle-même influencera les politiques de façon importante sur des sujets qui sont dérisoires. Et c'est pas pour rien qu'on emmerde parfois la vie des citoyens au niveau européen, parce que des industriels ont envie qu'on modifie des normes pour changer les parts de marché, pour gagner les parts de marché, et pourquoi nous ne sommes pas très bons en matière de lobbying au niveau européen et les Allemands sont très bons, parce que eux ne parlent que technique. Nous, on parle politique quand on va à l'Europe. Les Allemands, ils ne parlent que technique. Résultat, ce sont les industriels allemands qui imposent les normes dans tous les secteurs de la vie, de l'assainissement, dans tous les secteurs des collectivités ou de la vie quotidienne des gens. Et c'est malin. Ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de vague. On a utilisé quelques people. Cohn-Bendit, parfois, défend très bien les intérêts industriels allemands. Hein, vous voyez, parce qu'il faut savoir utiliser ses propres adversaires. Hein, et là, au Parlement européen, c'est facile parce qu'il n'y a pas de logique gauche-droite. C'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez obtenir des résultats qui sont assez surprenants. Alors voilà, c'était juste une petite entrée en matière sur l'art et la manière d'influencer son prochain. Donc je pense que je vais laisser la parole aux autres intervenants et que nous débattrons plus tard.
À moins qu'il y ait des questions peut-être précises, ou Didier, tu veux réagir ?
C'est pas une question sur cette intervention de Thierry Coste. Simplement, vous peut-être confirmer d'une discussion qui a eu lieu à Saint-Jean-d'Angély avec Daniel Cohn-Bendit quand on l'avait invité au débat sur les questions de développement durable, faisant part de cette interrogation qu'il avait lui-même en tant que lui-même, puisqu'il avait annoncé à la tribune qu'il avait été employé à plusieurs reprises de grands groupes industriels allemands pour acculturer les dirigeants à l'environnement, mais également pour acculturer ses camarades verts à une vision de la valeur ajoutée dans un monde industriel. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième aspect, c'est effectivement la réflexion qu'il avait fait à la tribune. Je ne sais pas si des gens ici étaient à Saint-Jean-d'Angély. On était 600 ce soir-là, où il disait toute l'ambiguïté qu'il y avait dans ce balancement entre l'information documentée et l'information segmentée. Donc, en d'autres termes, quand elle est documentée, on arrive à en avoir une vision globale. Quand elle est segmentée, on fait un focus juste sur un point particulier. Je crois que l'intervention de Thierry, indépendamment de son profil particulier, met le doigt sur un problème sur lequel il faut qu'on se batte tous, qui est celui de la mise en perspective historique. Pas pour le plaisir de parler de Marignan et de la guerre de 14, c'est pas ça du tout. C'est parce que tout ça s'inscrit dans une filiation historique avec la manière dont on pratique les choses actuellement. Donc la mémoire, elle est ancienne, mais elle est récente. Puis le deuxième aspect, c'est effectivement mettre en évidence, mais je crois que tu le dis bien dans ton exposé, les ambiguïtés et finalement les mises en perspective qui nous manquent à titre personnel dans des visions collectives. Et je crois que là, on a un exemple très concret de ce qui se passe, parce que ça se traduit par des choses simples. On change des lois, on change des règlements, on change des textes. Et nous, un jour, on se retrouve germanisé par les yaourts et pas par la pensée, quoi. Donc c'est un travail de compréhension que les Français, peut-être même les Latins, ont du mal à adopter. C'est une compréhension du fait que la configuration de notre société, elle est en train de changer de manière absolument pas transparente. Débat, hein, parce qu'on parle de territoire. Il faut savoir sur nos territoires, est-ce qu'on va standardiser les territoires à l'aune de telle ou telle pensée dominante, ou est-ce que les tenants du développement local arriveront à faire vivre une pensée autonome, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus global ? Numérique, je crois qu'il va en être question dans un peu de temps. Donc moi, je suis très intéressé par cette démarche, indépendamment du fait qu'elle puisse, derrière un cynisme apparent, poser des problèmes épistémologiques et philosophiques, mais dont on acceptera de parler aujourd'hui et dans d'autres cénacles, avec toi ou avec d'autres, parce que ça fait partie d'une composante de nos sociétés qu'il ne faut pas oublier.
Peut-être aussi, Thierry, c'est anecdotique, mais quand même, pour qu'on se situe un peu, parce que tu es extérieur à la région, mais tu ne l'as pas été tout le temps, puisque le droit de prescription est passé, donc tu peux peut-être parler de ton expérience avec la montée du conservatoire, la réalisation du conservatoire des espaces naturels, en quelques mots.
J'ai cherché, mais c'était dans une vie antérieure. J'étais encore proche de l'univers politique, même si j'étais pas un communicant, mais un stratège. Mais j'ai effectivement conseillé le président de la région Poitou-Charentes lorsqu'il s'appelait Jean-Pierre Raffarin. J'en conseillais beaucoup d'autres aussi. Et parce que je suis assez éclectique dans le conseil, mais à gauche et à droite, bien évidemment. Mais l'idée, au travers du conservatoire dont on parle, des espaces naturels, l'idée pour moi, c'est qui suis un professionnel de l'influence, c'est toujours de penser qu'on est d'abord un peu plus intelligent à plusieurs, et que d'autre part, on peut gérer les contradictions, et qu'il faut accepter de conduire des stratégies où on gère des contradictions, où on gère des intérêts qui peuvent être contradictoires. Et l'exemple du conservatoire était révélateur, parce que le président de l'époque, qui, comme beaucoup de présidents de région, avait une idée extrêmement simple, c'est il faut faire un conservatoire parce que les ONG environnementales m'ont dit qu'il faut en faire un, donc je vais leur payer une étude de faisabilité, comme ça en plus ils me foutront la paix parce que je les ai payés, donc ils vont être gentils avec moi. Il avait juste oublié qu'il risquait de proposer un machin qui était le maintien du monopole des ONG qui n'ont pas d'argent, alors que à côté de ça, il y avait des départements, Poitou-Charentes, dans cette région, qui avaient de l'argent parce qu'ils lèvent des taxes, et qu'il y avait des chasseurs et des pêcheurs qui s'occupent des espaces, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des professionnels intéressants. Et finalement, on allait tout focaliser sur un partenaire historique. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il faut accepter, c'est peut-être pour ça que je suis devenu lobbyiste après, il faut accepter des contradictions, mais on peut avoir un sujet commun qui n'est pas de tout partager, mais qui est de partager un combat commun pour préserver la biodiversité ordinaire en Poitou-Charentes, et que tous ceux qui ont une capacité financière, humaine ou intellectuelle en top, puissent aller dans le même sens. Pour ça, ça veut dire qu'il faut se supporter, qu'il faut accepter que celui qu'on déteste soit juste en face de vous et qu'il soit peut-être même au même rang, qu'il soit même vice-président de la même organisation qu'on a alors qu'on les a combattus. Et ça, je pense que c'est sans doute lié au fait que en lobbying, les adversaires d'hier sont les amis de demain. Donc que je devais déjà avoir cette culture-là à ce moment-là. Qu'on a réussi à mettre ça, c'est devenu un modèle au niveau français. Parce qu'effectivement, la bonne idée, c'était quand même que tous ceux qui ont des moyens pour défendre et protéger les espaces naturels ordinaires, pas les espaces d'exception qui sont déjà mis en réserve, c'était quand même mieux qu'ils s'entendent et qu'ils co-gèrent ça. Ça ne voulait pas dire, parce qu'il faisait ça dans ce secteur-là, qu'il n'allait pas se foutre sur la tête, sur tout le reste. Et je pense qu'il faut savoir faire la différence. Alors moi, je suis un peu machiavélique, donc je pense que j'ai beaucoup de cloisonnement et qu'une partie de moi-même ne parle pas à l'autre. Mais il faut quand même l'accepter, cette idée. Et par ailleurs, Je vous rassure, je suis quand même un rural, donc je comprends sur la logique des territoires, et je comprends qu'il faut parfois justement mettre en place ces systèmes qui fait qu'on partage pas tout, mais qu'on arrive à s'entendre sur un point ou sur quelques-uns et qu'on avance ensemble.
Merci Thierry. À moins qu'il y ait des questions précises, sinon je passe la parole à Camille Yalouin. Donc on a parlé effectivement du numérique. Donc Camille Yalouin est enseignant-chercheur à l'ICOMTEC de Poitiers et donc va nous parler de l'influence par le prisme du numérique. Et je sais que dans la salle, il y a des représentants très actifs au niveau de blogs ou autres réseaux sociaux.
Bonjour. Oui, ça va venir. Ok. Bonjour. Donc oui, je suis enseignant à l'ICOMTEC de l'IAE de Poitiers. Je suis chercheur en sciences de l'information au CEREJ de l'IAE de Poitiers. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de numérique et d'influence. Vous allez voir d'une manière peut-être un peu... Enfin, sur un sujet assez micro et assez particulier. Je vais essayer de relier ça à la fin avec la créativité des territoires. J'avoue que c'est... Enfin, peut-être que dans le débat, j'essaierai de faire des liens plus précis par rapport à vos attentes. Alors, quand on parle de numérique, hein, je pourrais parler de... C'est peut-être un peu mieux. Je pourrais parler de smartphone, par exemple, comme nouveau paradigme qui influence notre relation aux autres, ou encore des tablettes comme nouvelle forme de lecture, etc. Moi, je vais me concentrer sur les usages du web comme application d'Internet et comme forme d'application numérique. Par contre, je ne parlerai pas d'actions de communication d'influence en ligne, comme par exemple les Jompis, si vous vous rappelez, c'était le mouvement des auto-entrepreneurs, qui illustre bien 1000 personnes qui arrivent à faire plier un gouvernement, ou encore ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'idée des usages. Et voilà pourquoi je ne parlerai pas d'influence comme une forme d'intentionnalité d'agir sur les comportements des autres, ce que font très bien les lobbyistes et les personnes dans la communication d'influence, mais vraiment d'influence comme un ensemble de signaux informationnels, on va dire, qui viennent modifier nos représentations des choses, qui viennent notamment modifier nos opinions, puisque je travaille beaucoup sur la réputation et notamment la réputation en ligne. Alors en fait, mon propos, plus précisément... qui sera en quoi nos pratiques informationnelles ordinaires du web viennent modifier, influer sur les opinions que l'on a de notre société et par exemple des territoires. Ce que j'entends par pratique informationnelle, c'est vos usages quotidiens d'applications web. Et ordinaire, moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas donc les exceptions, les mouvements citoyens ou les stratégies d'entreprise. Moi, c'est vraiment comment quotidiennement l'usage que vous faites d'Internet va influer vos perceptions. Et donc, je prendrai l'exemple d'une application que tout le monde ici doit connaître, qui est le moteur de recherche de Google. D'où cette question, qui ici utilise Google quotidiennement ou pour faire des recherches habituelles sur le web. Voilà.
Qui n'utilise pas encore.
Donc effectivement, question rhétorique que je pose tout le temps à mes étudiants, en fait, enfin tout le temps, pas à chaque heure, mais à chaque fois que je leur fais un cours sur les sujets, je leur demande qui utilise Google. Donc comme 96% des Français, j'ai encore des étudiants hein, sur 200, 300 qui utilisent que Yahoo, mais ils sont assez rares hein, et ils sont ostracisés ensuite après les pauvres. Mais quand je leur demande, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir s'ils utilisent Google, mais c'est pourquoi vous utilisez Google. Alors j'ai souvent des réponses assez variées, parce que l'ergonomie est sympathique, parce qu'il est mis par défaut dans beaucoup de navigateurs, parce qu'il est assez rapide et puissant. Mais la réponse qui revient constamment, c'est parce que Google nous fournit des résultats pertinents. Et moi, c'est cette question de la pertinence qui m'intéresse, puisqu'au final, sans rentrer dans des considérations sémantiques, hein, ce qui est pertinent, c'est ce qui colle à l'objet et à la demande. Cette idée de pertinence est intéressante, puisque aujourd'hui, personne ne connaît réellement les critères qui font fonctionner l'algorithme de Google. On a des idées. Hein. Moi, avant d'être enseignant-chercheur, j'étais consultant, notamment en e-lobbying, et ça concernait tout ce qui avait le référencement naturel. Vous savez, le positionnement des sites, donc on cherchait beaucoup quels étaient les critères, etc. Mais aujourd'hui, personne ne connaît les critères. Pourquoi tout le monde l'utilise ? Je vais user de pas mal d'analogies, parce que j'aime bien ça. C'est comme si vous utilisiez votre voiture sans savoir du tout comment fonctionne le moteur, ce qui était même une roue, ou comment tourne une roue. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui des usages de Google. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça soit volontaire ou non, quand on cherche une information sur Google, l'information qu'on va trouver va influer sur nos représentations des choses, va influer sur nos opinions, précisément, que ça soit volontaire. Hein, je cherche une réponse à une question, donc je vais bien sûr prendre l'information qui m'est donnée pour construire ma représentation de la chose, pour répondre à ma question. Et aussi, selon certains chercheurs qui parlent de passive learning, que vous le vouliez ou non, d'être exposé à des informations toute la journée, que vous les abordiez, pour prendre un terme un peu psychologisant, de manière consciente ou pas, vous allez quand même vous servir de ces informations pour construire vos représentations des choses. Donc ça va influer directement. Moi, dans mes recherches, je me suis intéressé aux facteurs, on va dire, qui influent sur une opinion lorsque l'on fait une recherche sur un moteur de recherche, et donc sur Google, puisque c'est difficile de passer à côté. Pour vous donner une idée, on va prendre Monsieur Y, hein, pour ne pas dire Madame Michu, qui va vouloir rechercher, j'en sais rien, un restaurant proche de chez lui, la dernière actualité, etc. Donc déjà, il va y avoir énormément de choses qui vont influer le choix de ces mots-clés, puisque quand on fait une recherche sur Google, on utilise des mots-clés. Ça va dépendre beaucoup de l'expérience, du vécu, etc. Ensuite, quand il va rentrer ses mots-clés, Google va déjà lui proposer une suggestion qui va peut-être influer sur son choix, ou en tout cas sur les informations qu'il va obtenir. Ensuite, quand il arrive sur la page de résultats, je pense que vous la visualisez tous, il va y avoir énormément de choses qui vont influer sur son choix. Ça va être le titre de l'article, de la page web, le résumé en dessous, les publicités contextuelles. S'il est logué à Gmail, ça va être ce que ses amis ont préféré. Bien entendu, la hiérarchisation des résultats. Hein. Les études montrent que 88% des gens ne vont pas au-delà de la première page de Google pour rechercher des informations, etc. Puis quand il va cliquer sur un résultat, il va avoir là l'ensemble de la page web, qui est l'auteur, sa réputation, son autorité, sa notoriété, quel est le texte, quelles sont les images, comment le texte est agencé, etc. Bref, j'ai trouvé plus de 787 critères. Donc je ne vais pas tous vous les donner, parce que c'est pas l'objectif. Pour ça, on fait des colloques scientifiques. Donc voilà. Ce qui montre qu'au final, Google, énormément de choses vous influent de manière ordinaire, j'insiste, hein, pour les personnes, pour les chercheurs ici, ordinaires au sens de De Certeau, c'est vraiment la quotidienneté de toutes ces informations qui vont jouer sur vos représentations. Maintenant, la question, c'est comment fonctionne l'algorithme de Google. Si on ne sait pas réellement comment cet algorithme fonctionne, on sait à peu près les grandes lignes, hein, puisqu'il fonctionne sur le principe du PageRank. Le PageRank, qui est un brevet qui était sorti, donc on peut partir de là pour l'étudier. Les deux fondateurs de Google à la fin des années 90, pour la petite histoire, étaient doctorants aux États-Unis, et ils se sont dit comment produire des résultats, enfin pour comment produire un moteur de recherche qui fournit des résultats plus pertinents que à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent encore, AltaVista ou Lycos, où c'était assez AOL, enfin qui avait son moteur de recherche, c'était assez particulier, hein, quand on tapait des mots-clés. Donc ils se sont dit on va partir sur le principe de la recherche. Et en recherche, plus vous êtes cité, plus vous êtes réputé. C'est un peu l'idée. Plus vous avez de citations, hein, nous, grâce à l'AERS en France, on combat chaque année pour être dans des revues, pour être cité ensuite par des collègues, etc., pour gagner des points. Google s'est dit, on va fonctionner exactement de la même manière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus un site internet est cité par d'autres sites internet, plus ce site est considéré comme populaire par Google, et donc Google le met en visibilité. Je fais abstraction, bien sûr, des centaines d'autres critères qui viennent pondérer ça. Et ce qui fait que là, on est dans un renversement de paradigme assez intéressant, c'est que là où mes étudiants, et je pense implicitement la plupart des usagers de Google, voient comme quelque chose de pertinent, ce n'est pas quelque chose de pertinent, c'est quelque chose de populaire. L'exemple que je donne à mes étudiants, je leur dis, c'est comme si aujourd'hui je vous donnais 5 définitions, par exemple, du lobbying pour mon cours, on va voter pour celle que vous préférez, ça sera la définition de référence. Google fonctionne un peu de la même manière. Et bien sûr, il faut faire attention, popularité ne veut pas dire démocratie, hein, d'ailleurs, enfin, même en termes de sciences politiques, ce qui est populiste n'est pas forcément démocratique. Mais là, sur Google, ça s'applique aussi, puisqu'il y a des manières d'arriver dans les résultats plus facilement, puisqu'on peut payer des AdWords de la publicité contextuelle, puisqu'on va surtout jouer sous aucune constitution, si ce n'est la constitution de Google qui va vous dire ce qui est bon ou pas pour votre site, ce que vous devez faire ou non. De même, il faut faire la différence entre pertinence et autorité. Google ne produit plus de l'autorité telle qu'on l'entend. Hein. L'autorité, c'est en tout cas l'autorité informationnelle, c'est la légitimité à produire de l'information. Hein. Par exemple, les journalistes ont une autorité puisqu'ils sont légitimes pour différents critères à produire de l'information. Là, on n'est pas dans de l'autorité, on est dans de la visibilité. Et ça fait quand même une grande différence que les gens ne voient peu. Pour prendre un exemple de tentative de communication d'influence qui a plutôt réussi, je suppose que vous avez tous entendu parler de la rumeur par texto qui a été envoyée à des parents musulmans pour les inciter à ne pas envoyer leurs enfants à l'école puisqu'on allait leur enseigner la théorie du genre, enfin bref, tout ce qui va avec. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que quand les gens étaient interviewés, on dit oui, on a reçu le texto et on allait vérifier sur Internet, i.e. on allait vérifier sur Google, et effectivement, on a trouvé des sites qui confirmaient ce qu'on venait de nous dire par texto. Et c'est là que c'est intéressant, puisque les sites qui ont fait autorité sur des propos qui, pour ma part, me semblent assez quand même hallucinants, étaient les sites les plus visibles et non pas les sites les plus légitimes à informer ses parents sur ce qui se passait dans l'éducation nationale. Donc tout ça, ces paradigmes qu'ont instauré Google, hein, je prends Google comme exemple et je pourrais vous citer des milliers d'autres plateformes sur le web, c'est juste qu'ils commencent à être très très présents dans nos vies de tous les jours. Ce fonctionnement qui influe sur notre vision de la société, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas, peut-être pas, enfin je vais pas jeter la pierre aux fondateurs de Google, hein, je pense que leur objectif premier c'est de gagner de l'argent, comme toutes les entreprises, hein. Je sais pas s'il y a une idée politique derrière ou pas. Mais ça repose quand même sur leur choix, scientifique, parce qu'à la base, c'est quand même des choix scientifiques. Ça repose donc sur leurs objectifs économiques. Il faut savoir que Google a développé une forme de ce qu'on peut appeler du capitalisme linguistique. Ce qui rapporte de l'argent à Google, c'est les termes que vous rentrez quotidiennement dans son moteur de recherche. Et c'est pour ça qu'il est gratuit, et c'est pour ça aussi qu'il est coté à 70 milliards en bourse. C'est aussi les stratégies des organisations qui vont vouloir se positionner plus rapidement dans les résultats des moteurs de recherche. Et c'est bien sûr la place de l'algorithme de Google, même si on est dans une société qui aime beaucoup les chiffres, qui vénère les statisticiens, soyons bien clairs, un algorithme n'est pas neutre. L'utilisation de l'algorithme Google va dépendre donc de tous ces choix commerciaux, scientifiques, qui font qu'aujourd'hui, on est notre représentation qu'on a de l'information, puisque Google, en tout cas le web en général, commence petit à petit à remplacer certains autres médias traditionnels comme la télévision, la radio, etc. pour s'informer, vont influer vraiment sur nos opinions, sur notre manière d'agir. Donc mon propos est de dire qu'au final, le web redéfinit la notion même d'influence, car cette influence avec vos usages quotidiens devient ordinaire. Vous recevez constamment des signaux dont vous ne mesurez pas l'importance lorsque vous utilisez le web. Elle devient parcellaire, puisque vous n'utilisez pas que Google, vous avez diverses plateformes. Et surtout, elle devient de plus en plus difficilement identifiable. Autant avant, ça pouvait être... Et encore, c'est à discuter, mais ça pouvait être simple de dire, voilà, il y a eu tel message qui est passé à la télévision, ce message a agi sur le comportement des gens. Les gens peuvent dire d'ailleurs, objectivement, j'ai entendu tel discours, ce discours a influé sur mon comportement. Aujourd'hui, je vous mets au défi déjà de me dire à combien d'informations vous êtes exposé consciemment quand vous utilisez le web par jour, je crois que c'est quasiment impossible, et ensuite lesquelles vous allez utiliser, etc. Bon, pour l'anecdote, hein, avant on entendait « oui, je l'ai vu à la télé, maintenant je l'ai lu sur Google ». C'est aussi une forme. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait que l'accumulation des données numériques, hein, ce qu'on appelle vulgairement les big data dans les milieux marketing, soit un enjeu énorme et financier pour les organisations de plus de 3 ans, puisqu'on fait vivre l'illusion que plus on va capter de données personnelles, je ne demande pas combien de personnes d'entre vous sont sur Facebook et combien ont lu les CGU de Facebook, c'est-à-dire les, je pense, personne, sur ce que Facebook, par exemple, fait de vos données, mais ça explique cette volonté encore de science-fiction et de contrôle, de dire plus on aura de données, plus on pourra connaître les gens par leur agir sur Internet, par les données qu'ils utilisent, plus on pourra les prévoir ces comportements et plus on pourra donc influer directement sur ces comportements. Rassurez-vous. J'ai envie de souligner, mon propos n'est pas alarmiste. Hein, j'essaie pas de vous dire qu'Internet c'est le mal, c'est le diable. Moi, je pense, et c'est peut-être le lieu pour le faire par rapport à vous qui êtes des acteurs territoriaux, qu'il faut réellement réfléchir à ce que j'appelle cette mise en chiffre de notre comportement. C'est pour ça que le terme numérique est vraiment approprié, hein, puisque quand on utilise le web, nos comportements, nos informations, nos agirs, etc., sont mis en chiffre, sont calculés, et de réfléchir à la manière dont ces calculs, qui sont effectués par des algorithmes, vont influer par exemple, sur la créativité ou sur le développement d'un territoire. Moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on ne fait pas à l'école. Si j'ai appris que la gendarmerie et une compagnie d'assurance allaient éduquer les enfants à l'école, moi, enfin sur Internet, moi, ça me fait peur, parce que alors la gendarmerie, ça va être Internet et le diable, nanana, nanana, et la compagnie d'assurance, c'est ne vous inquiétez pas, c'est le diable, mais on est derrière vous. Aujourd'hui, la plupart des institutions publiques ne font pas ce travail-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis content d'être ici, de pouvoir tenir ce type de discours qu'énormément de chercheurs tiennent. Je ne suis pas un uluberlu, je ne sais plus le terme qui avait été pris au premier, qui aime juste contredire pour contredire. Il y a des champs de recherche, on appelle ça les humanités numériques maintenant, et des nouveaux masters d'ailleurs vont être créés en 2015 sur ce sujet. Mais vraiment, voilà, et l'entreprise. Parce que voilà, l'entreprise, moi avant j'étais cadre en entreprise, et quand on arrive en entreprise, ce qui est quand même magnifique, c'est qu'on vous donne un ordinateur, on dit voilà un navigateur, voilà Internet, débrouillez-vous. On ne vous forme pas à ça. On ne forme pas les enfants à ça. On ne forme pas les citoyens de manière générale, non pas à la simple utilisation technique. Ça, si vous voulez, on a un très bon master qui se fait même, qui peut même être fait en DU en intelligence économique à l'IAE. Ça, c'était pour la pub, où on pourra vous former à la recherche d'informations, à l'intelligence économique, etc. Non, l'idée, c'est vraiment de comprendre quel est le fonctionnement derrière. Puisqu'au final, les algorithmes, je parle de Google, mais aujourd'hui Renault et Google d'ailleurs viennent de sortir une voiture sans chauffeur qui fonctionne avec des algorithmes. Il faut savoir que 90% des transactions financières et qui ont amené des cracks, qui emmènent la fameuse crise, etc., sont faits par des algorithmes, les high frequency trading, c'est-à-dire qu'un trader généralement voit passer des transactions à la milliseconde près, mais n'a réellement aucun impact sur ces transactions. Google, en parlant d'eux, encore une fois, j'ai pas d'action chez eux, mais en parlant d'eux, Google vient de racheter pour 10 milliards de dollars une entreprise qui fabrique des détecteurs de fumée. Mais parce que d'ici 2015 ou 2017, tout le monde aura un détecteur de fumée dans sa maison en Europe. Et ce qui sera magique, c'est que ce détecteur sera connecté à votre smartphone si vous avez Android, qui sera connecté à vos recherches Google, qui sera connecté à votre Gmail, etc. Et là, Google pourra même savoir combien de temps vous êtes chez vous, quand vous vous déplacez, etc., etc. Et tout ça, quand je dis Google, ce qui est magnifique, c'est qu'on a l'impression d'une entité du diable. Non, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui va gérer ça. Et donc, pour conclure là-dessus et ouvrir au débat ensuite, au niveau des territoires, il me semble qu'il y a une nécessité de comprendre que sur le web, la créativité est totalement accaparée par les plateformes sur lesquelles sont créées. C'est bien d'inciter les gens à faire des blogs, c'est bien d'inciter les gens à être sur Twitter, etc., etc. Mais si on les incite à faire ça sans leur expliquer, sans travailler avec eux une approche critique, vraiment une théorie critique de l'algorithme, une théorie critique du numérique, je pense que au fil du temps, cette créativité, comme d'ailleurs ce territoire qui est transposé au numérique, va être accaparée, va renforcer un web, un internet en silo, là où moi je pense que le web a été construit pour être ouvert, et que donc c'est un vrai défi d'enseignement en termes d'influence, c'est-à-dire continuer à utiliser ces outils, c'est pas la question, mais de comprendre en quoi ils influent chaque jour sur nos comportements. Voilà pour moi.
Merci beaucoup. Peut-être des questions, peut-être un témoignage, je sais pas, le blog Coccinelle, vous voulez vous présenter en même temps, puis peut-être réagir.
Je vais peut-être aller à l'inverse de monsieur. Oui, alors... Voilà, donc moi j'ai un blog qui s'appelle Coccinelle Poitiers, donc qui est un petit blog d'actualité sur la ville. Donc moi j'estime pas avoir une influence quelconque sur quoi que ce soit, mais enfin bon, je fais quand même passer mes petites informations de temps en temps, et dans mes billets je truffe des fois de petites réflexions personnelles sur la vision de la vie dans la société, quoi. Et alors moi contrairement à vous, Google est mon ami, et j'ai pas l'impression que ça soit moi qui soit populaire, mais c'est un travail acharné pour arriver justement à me faire référencer par Google. Donc c'est plutôt moi qui cherche à aller vers 96% de la population, et non pas 96% de la population qui cherche à aller vers moi. Ensuite, si j'utilise les réseaux sociaux, c'est parce que je me suis aperçu que les gens sont connectés sur les réseaux sociaux. Et donc, si je voulais avoir de la visibilité, il fallait que je m'intéresse aux réseaux sociaux, et en plus que je développe une stratégie, parce que comme on a dit tout à l'heure, on est sur une stratégie de l'instant, et donc il faut publier quand les gens sont devant, parce que sinon l'information, on est tellement noyé, comme vous le dites vous-même, dans la suite d'informations, que si on ne publie pas au bon moment, on n'est pas visible. Donc c'est parce que moi j'ai fait ça parce que je me suis dit comment se fait-il que j'ai plus de 2600 et quelques amis, et que j'ai 200 visites sur mon blog. dans la moyenne basse et que je peux monter à 450 des fois, quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas moi qui étais entre guillemets un réseau d'influence, mais en fait, je me suis aperçu que les visites que j'avais, c'est parce que je parlais des gens et que les gens veulent se voir sur Internet. Donc quand j'ai fait un billet, par exemple, sur une discothèque, j'ai eu une grande influence que j'avais jamais eue depuis très longtemps sur mes billets, parce que j'ai parlé de cette discothèque et les gens qui vont à cette discothèque ont voulu voir ce qui ne parlait pas. Mais si la discothèque n'avait pas fait le relais comme quoi que j'avais écrit un billet sur eux, j'aurais eu une visibilité comme d'habitude, quoi. Et le ratio après, en me disant que ce que j'écrivais était peut-être intéressant et donc les gens iraient voir le reste, en fait j'ai eu un pic d'influence et après je suis retombé dans l'anonymat total. Donc voilà, c'est donc moi j'ai une approche un petit peu différente justement de, enfin par rapport à tout ce que vous avez dit, quoi. Voilà.
Alors moi, enfin par rapport au sujet qui m'intéresse, les réputations, j'ai un blog depuis 6 ou 7 ans sur le sujet, hein. J'ai créé mon premier forum en 97, mon premier site web en 95, donc j'ai Twitter, enfin je suis sur Twitter avec des followers, etc. Donc en fait je ne critique pas l'usage de ces outils. Ce que je veux dire, c'est, enfin non, mais ce que je veux dire, c'est l'usage me paraît intéressant, utile, hein. Enfin je veux dire, c'était mon métier, c'est mon sujet de recherche, enfin il y a pas de souci. Ce que je veux dire justement, c'est d'essayer de comprendre que peu à peu, enfin, ce qui est intéressant dans vos propos, moi ce que j'ai arrêté de faire personnellement pour mon blog par exemple, c'est qu'au final vous commencez à produire ce que font d'ailleurs tous les journalistes de plus en plus, enfin, les médias de presse, et ce qui est, je trouve, dommageable pour l'information en général, c'est de dire je produis pour Google, parce que c'est Google qui va, enfin je surinterprète pas vos propos, hein, mais ce que je veux dire c'est que quand vous produisez, vous pensez quand même au fait d'être dans la première page. Vous pensez quand même, moi je dois avouer, moi j'ai 10 000 followers sur Twitter, 10 000 personnes qui me suivent. Quand je fais un titre d'un billet de blog, je suis comme un journaliste, hein, je me dis soit, enfin même si les propos n'ont rien à voir avec le titre, j'essaie de trouver des titres marquants pour faire venir du monde. Et ça, parce que ça, on est dans une logique d'audience. Et moi, ce que je voulais souligner, c'est que notamment l'audience, la médiatisation, la mise en visibilité ne signifie pas, bien entendu, la qualité de l'information et ne signifie pas aussi la fiabilité de ce qu'on va y mettre. Vous voyez, moi j'ai travaillé avec des black hat en référencement. Si vous voulez, je peux vous donner un petit plugin WordPress. Vous créez entre 1000 et 2000 blogs en une demi-heure, vous les liez tous vers votre site et vous êtes en première page de Google pour les mois à venir jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a, voilà, c'est ce que j'explique à mes étudiants notamment. Il y a plein de techniques comme ça. Moi, j'appelle ça du e-lobbying, mais bon, voilà, il y a plein de techniques comme ça sur le web qui sont possibles. Mais c'est ça que je trouve dommage. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs pour parce que vous êtes un média, hein, comme un autre. Hein. Pour moi, un blog, vous êtes un média. Vous informez les gens sur ce que vous voyez, en tout cas sur le territoire. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, puisque les médias de presse donc sont en train de combattre et produisent des textes qui sont majoritairement de plus en plus faits pour des robots, les robots de Google qui viennent scanner les pages, et pas faits pour des êtres humains. Et c'est ça qui est dommage. Après, moi, j'ai fait une étude sur Twitter, par exemple. Je suis parti, j'ai cartographié 4 millions de comptes, hein, parce qu'avec Twitter, en les payant, je peux aspirer toutes vos données. Voilà, j'ai fait sur 4 millions. Sur 4 millions, 86% des personnes relaient un tweet avec un lien sans cliquer sur le lien pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est tout un mécanisme qui, moi, me semble nécessaire à prendre en compte pour avoir un vrai recul critique et dire au final, aujourd'hui, si, et moi ce que je peux vous conseiller, hein, c'est, après vous faites ce que vous voulez, c'est si vous avez, mieux vaut avoir un lectorat faible en termes de volume, mais qui interagit, qui relaie, qui participe, que d'avoir 15 000 visiteurs par mois qui n'interagissent pas du tout, parce que là, vous faites le jeu des moteurs, et je suis sûr que si vous regardez, je parie, mais j'ai peut-être tort, mais si vous regardez les statistiques de votre blog, une bonne partie viennent de Google. Il faut savoir que vous prenez le pourcentage de personnes qui viennent de Google, vous en enlevez 90%, parce que 90% sont des visites de robots. Donc là, vous avez en plus que Google ne vous apporte pas tant d'audience que ça, mais que pourtant, se formater à Google, notamment pour dire « je vais produire ce qui va intéresser les robots », ça va être pour moi à long terme assez dommageable sur l'information, quoi. Mais je vous reproche rien.
J'ai une vision très différente par rapport à ça. Parce que je ne produis pas pour
Google. Je mets simplement des mots-clés pour que quand on tape Poitiers, j'apparaisse au moins quelque part. Voilà. C'est juste ça. Après, je ne produis pas du contenu pour les robots. Ensuite, dans mes statistiques, Dieu m'en préserve, heureusement, ce sont des visiteurs uniques et non pas des robots, mais bien des êtres humains. Mais bon...
Alors, avec Google Analytics, vous avez ?
Et j'ai pas que Google Analytics.
Ou Vizity, enfin c'est... Oui, enfin, je veux pas combattre. Si il faudrait que je cherche la référence, je vous donnerai la dernière étude justement sur le nombre de visiteurs avec les robots ou pas. Même si c'est marqué visiteur unique, le TXT de robots de Google est compté comme un visiteur unique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, c'est de manière, comment dire. Implicite, c'est ce que j'essaye de dire en fait. Quand on parle d'influence, pour moi, c'est de manière implicite. De manière consciente, vous mettez des mots-clés, etc. Ok, mais de manière implicite, vous voulez être sur la première page pour Poitiers. Et je vous promets, alors si vous voulez, je ferai un panel d'études dans 3 mois, vous me donnez votre adresse, vous venez avec moi dans mon panel d'études, on va faire ça avec 800 personnes normalement. Je suis prêt à parier que d'une manière ou d'une autre, vous pensez quand même à cette audience qui est dirigé par les plateformes sur lesquelles vous êtes, et que donc ça influe de manière mineure ou majeure, c'est pas la question. Hein. Je veux dire, voilà, si on prend, je sais pas si vous connaissez Melty ou des sites comme ça, des sites, comme on dit, qui font du buzz, qui eux sont à 99%, on pense comme ça. Je dis, ça influe quand même. Je dis, moi en tant que blogueur, ça influe quand même sur la manière dont j'écris, parce que au final, si j'écris, c'est pour être lu. Et le problème, c'est que les portes d'accès pour venir me lire, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Google. Donc si je ne prends pas même conscience un tout petit peu que ces portes d'accès-là sont mon audience, fatalement, je vais écrire juste pour moi. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la recherche. Vous savez, on écrit des articles que personne ne lit. Donc c'est pour ça que je suis chercheur. Hein. Sinon, voilà, j'ai un blog si j'ai envie d'être lu. Mais si j'ai envie d'être lu, je rentre donc dans les mécanismes qui sont mis en place.
Oui, bonjour. Bonjour, je suis Henri Lozange, je suis Fontenay-le-Comte. J'ai fait un petit peu de communication et de formation quand j'étais jeune. Il y a un paramètre que je ne comprends pas très bien entre ce que vous donnez, je comprends un peu mieux maintenant ce que sont les algorithmes, j'ai une nouvelle approche, mais j'ai envie de savoir ce que pense Machiavel à droite, là. Parce que la...
À gauche.
Bon. À la gauche de ma droite. Voilà. Ça va être... Bien. Parce que si j'ai bien compris les algorithmes qui conduisent une voiture, par exemple, d'accord, ou qui jouent avec les mots-clés, ça me donne l'impression, à vous écouter, que ça tourne en rond dans le mécanisme. Mais que ça sort pas dans le, ça n'est pas pris en considération comme outil de manipulation par des individus et des sociétés. C'est là que j'aimerais avoir votre point de vue.
Je comprends votre question. Parce que la question des algorithmes en termes de recherche, j'entends pas recherche justement de personnes qui produisent des algorithmes, hein, pas forcément en informatique, en mathématiques, etc., en sciences humaines et sociales, hein, ce qui est mon champ de recherche. C'est une thématique qui est assez jeune. La critique, c'est un chercheur qui s'appelle Gilles Epsi, qui a commencé ça au MIT il y a 3-4 ans à peu près, à dire il faut réfléchir à une épistémologie, pour prendre les termes, une épistémologie des algorithmes. Surtout, on est dans une société très positiviste, très cartésienne, c'est dur, excusez-moi. On est dans une société très cartésienne, où d'ailleurs, c'est amusant, parce que je travaille sur un projet de recherche avec l'Ordre des médecins. Moi, j'adore leur dire ça pour les provoquer, les médecins, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Un médecin réfléchit comme un algorithme. Hein. C'est symptôme A plus symptôme B plus symptôme C égale maladie X1, X2, X3. On prend la statistique, c'est plus souvent une gastro que le ténia, donc il aura une gastro si elle est symptômes, pour prendre des exemples de saison. Là, je pense qu'on est dans une vision très objective, où on se dit un algorithme, c'est un calcul mathématique, donc c'est neutre. Donc au final, ce n'est pas l'algorithme qui crée des problèmes, c'est à la limite la personne qui va l'employer, etc. Et ça, j'insiste dessus, un algorithme n'est pas neutre. Si je choisis de faire des computations, de choisir tel type de données, de choisir de mettre tel type de pondération, pour sans rentrer dans des considérations statistiques, dans un algorithme, ça va totalement modifier les résultats. D'ailleurs, c'est ce que fait Google, pour continuer sur Google tout le temps, pour lutter contre justement les formes de référencement plus ou moins, qu'ils considèrent comme illicites, c'est-à-dire qu'ils changent constamment ces critères algorithmiques, ce qui fait que là, il y a en plus, ils donnent toujours des noms sympathiques. Hein, un des derniers, ça s'appelait Panda. Quand Google Panda est a débarqué comme algorithme de sélection des spams, il y a certains sites de e-commerce qui ont vu leur visite baisser de 95%, comme ça, du jour au lendemain, paf, 95% d'audience en moins, donc la plupart ont fermé, du coup, puisque, encore une fois, et là, c'est vrai que sur un blog, c'est moins visible, mais sur les sites de e-commerce, ils sont totalement Google dépendants, hein, parce que quand on perd 95% de ses visites, bah, on ferme. Certains ont commencé à se poser des questions et à se dire, voilà, il n'y a pas une réelle neutralité, puisqu'au final, Google décide de changer un paramètre, et ça. Et d'ailleurs, en termes de justice, hein, la Cour européenne, etc. Alors, la Cour européenne a dit non, mais aux États-Unis, Google a réussi, enfin, pas réussi, pardon, les opposants ont fait perdre un procès à Google, puisqu'en fait, le juge a dit non, ne vous cachez plus derrière votre algorithme. Cessez de dire, c'est pas nous, c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Ils ont dit, c'est vous qui avez créé l'algorithme, c'est vous qui changez les paramètres, donc c'est vous qui êtes responsable, notamment sur les questions de vie privée, c'est vous qui êtes responsable de ça, puisque c'est vous qui modifiez constamment ça. Donc, je pense qu'effectivement, et j'en reviens à cette approche critique, me semble nécessaire pour justement que les gens se rendent compte, qui plus est quand peut-être dans 10 ans, moi je suis fan de science-fiction, mais ça serait super, mais peut-être dans 10 ans, vous monterez dans votre voiture et la voiture conduira toute seule. Quand il y aura un accident, ça sera la faute de qui ? De l'algorithme, du constructeur, etc. Donc je pense que d'un point de vue en tout cas juridique, ça va, c'est quelque chose qui va venir. En tout cas, Isaac Asimov le prévoyait. Donc c'est quelque chose qui va venir et je pense qu'il y a encore effectivement un gros travail d'éducation aux médias numériques, et notamment aux algorithmes qui les sous-tendent, puisque si on parle de médias numériques, il y a énormément d'autres choses dont on pourrait parler sur la vie privée, les données, etc., qui est nécessaire pour que ça sorte un peu de cette vision. Un algorithme est neutre, un algorithme n'est pas lié aux humains.
Qu'en pense Machiavel ?
Alors, Machiavel de gauche ou de droite au choix, je pense que non, mais le sujet est extrêmement important. Au-delà de l'algorithme, c'est clair qu'avec les nouveaux médias, on arrive à ne plus avoir de nuances, de différences. Moi, j'étais toujours surpris, mais avant qu'on soit sur Internet, il y a 15 ans, quand on discutait avec un rédacteur en chef, parfois la ligne éditoriale risquait de bouger parce qu'ils avaient reçu 100, des journaux qui tirent à 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires, lorsqu'ils avaient reçu 100 courriers d'insultes pour tel ou tel sujet. Ça devenait important. Parce que, compte tenu du fait que personne ne répondait, les 100 courriers devenaient un critère, hein, pour modifier leur façon de traiter les sujets. Et je pense qu'avec Internet, on arrive, en étant malin, à fortement influencer, soit avec la version des algorithmes, soit avec l'action de faire passer une info plutôt qu'une autre, ou à donner une valeur à une info, alors que, comme tu le disais, elle n'en a pas nécessairement, elle est peut-être même pas fiable, mais elle est là. Et c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a une espèce, alors qu'on parle de la troisième, voire de la quatrième dimension, qu'on doit tout regarder en relief et en couleur, tout d'un coup, on a un grand plat qui est cette information où il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où. Comment la qualifier ? Est-ce qu'elle vient d'un groupuscule extrémiste malin qui sait parfaitement utiliser les réseaux informatiques et qui diffuse ? Ou est-ce qu'elle est quelque chose d'important ? C'est l'exemple de la rumeur. C'est redoutable. Moi, je reconnais que j'utilise régulièrement ça. Ah, il fallait pas que je dise, non. Bon, donc, je reconnais que c'est utile de faire passer des informations qui n'en sont pas quand on sait comment ça marche. Alors, au-delà d'influencer les algorithmes de Google, on influence un certain nombre de relais d'opinion qui rediffuseront cette information et qui, tout d'un coup, parce que l'instant est court, va devenir quelque chose d'important. Mais c'est un vrai sujet. Et plus on a un accès à l'information, aujourd'hui, moi, j'ai connu la période où il fallait que je paye 2 personnes pour lire le journal officiel. Imaginez, hein. C'était tous les jours 200 pages pour trouver des trucs. Aujourd'hui, avec Internet, c'est génial. D'abord, on est en direct comme si on était dans l'hémicycle. On suit tout. On voit les mecs, on voit les députés qui dorment, les sénateurs qui roupillent. On est en direct. Hein. Et moi, ça m'est arrivé combien de fois de pouvoir influencer, il y a encore pas si longtemps, heureusement, le Parlement est fermé pour 5 semaines, ça m'est arrivé d'envoyer des SMS à des parlementaires pour leur demander de sortir de l'hémicycle, et il sortait de l'hémicycle pour me parler. Donc ça veut dire que c'est grave. Et j'étais dans mon bureau à 850 km de l'hémicycle. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a des choses qui sont sans nuance et que c'est ça qui est compliqué pour nous. C'est ça qui est compliqué pour le citoyen. C'est d'arriver à se dire, mais où est-ce qu'est le système organisé à ma place et qui pense à ma place avec l'algorithme? Où est-ce qu'est l'information qui vient juste d'un groupuscule bien organisé qui représente 50 Pékin, mais qui est malin et qui sait utiliser ça? Où est-ce que j'ai une information qui est fiable, pondérée? C'est ça la difficulté. Et aujourd'hui, ça nécessite un vrai grand travail, parce que je vous parle, et moi, je passe mon temps à manipuler comme ça.
Mais c'est sur moi, c'est ce que j'appelle, ce que j'essaie de traduire pour ceux qui aiment bien Weber, c'est une théorie de la singularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait une partie de ma thèse là-dessus, c'était sur le principe des bulles informationnelles. Si vous prenez Facebook, ce qui fait que vous aimez Facebook, c'est qu'au final, Facebook vous envoie, vous savez peut-être pas, c'est un algorithme qui s'appelle LedgeRank et qui fait que vous avez certains posts qui apparaissent dans votre fil et pas d'autres, vous renvoie en fait des opinions qui vont dans le sens des vôtres. Et c'est un peu l'idée de ce que certains chercheurs développent de bulles informationnelles, ce que fait Google aussi avec Google Plus par exemple ou autre. C'est de dire au final, c'est jouer sur la paresse cognitive des gens, les biais d'acceptation, et de dire ce que je sais déjà, je l'accepte mieux. Donc, si j'aime utiliser Facebook, c'est parce qu'au final, je ne vois passer que des choses qui m'intéressent, des choses qui vont dans le sens de ce que je veux faire, de ce dont je veux parler. Et il y a même des chercheurs qui vont plus loin, qui appellent ça de la caconomie, c'est-à-dire que si vous regardez les échanges que vous avez sur Facebook avec vos contacts ou que vos contacts entre eux, on est très loin d'échanges intellectuels très, très développés. C'est-à-dire qu'au final, c'est une théorie d'une philosophe qui s'appelle Gloria Origi et qui dit que sur Facebook, par exemple, on a tendance à produire des contenus médiocres pour produire des échanges médiocres, parce qu'au final c'est cette médiocrité, pas au sens c'est mauvais, mais médiocre au sens où cognitivement ça demande pas des grandes ressources, parce que c'est ce genre de choses qui nous intéresse. Et à l'opposé de ça, je travaille aussi sur sur la réputation, ce que je vais appeler l'autorité réputationnelle, et c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui avec les fonctionnements de Google, d'autres, etc., ce qui va rendre légitime le fait d'informer, c'est la réputation. La réputation, c'est l'étymologie latine, c'est quand même le calcul, donc on reste dans le numérique, c'est une forme de calcul. Et c'est la réputation, ce sont par exemple vos indicateurs, le fait d'avoir 15 000 followers sur Twitter, d'avoir 150 000 fans sur Facebook, d'être bien positionné sur Google, d'avoir des opinions, des commentaires positifs sous ses posts, d'avoir des étoiles sur eBay, etc., etc. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui de plus en plus valorise la réputation comme forme de légitimité. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs ça transperce au-delà du web. Moi, j'étais assez halluciné de voir, comment elle s'appelle cette jeune fille, Nabila, pour prendre un exemple que tout le monde connaît aussi, répondre à des questions politiques à la télé. Je veux dire, là, on atteint quand même le summum. Mais enfin, ça, c'est mon opinion toute personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, parce qu'elle est médiatisée, et là on est bien dans la médiatisation, parce qu'elle a une audience, parce qu'elle arrive à attirer une audience, parce qu'elle reprend des codes de réputation qui font que sûrement des milliers ou des centaines de milliers de jeunes filles veulent s'identifier à elle, on arrive à lui poser des questions, on arrive à la légitimer sur des sujets qui, fût-elle très intelligente, quand même ne devrait pas lui revenir en termes de discussion. C'est comme moi, j'ai pas envie de parler politique. Donc c'est voilà. Et ça, c'est un mouvement assez médiatique, ce qui revient à un point que vous avez dit tout à l'heure, où je pense qu'au contraire, aujourd'hui, ce qui fait que des groupuscules arrivent, aujourd'hui, ce qui fait que 3 ou 4 000 personnes d'extrême droite qui manifestent à Paris arrivent à repousser un projet de loi du gouvernement, c'est parce qu'il y a une attention médiatique très forte, et que du coup, s'il n'y avait pas cette attention médiatique, si on laissait les néo-nazis manifester tout seuls dans leur coin, je pense pas que le gouvernement ou autre, qui devient d'ailleurs très sensible, et ça c'est notamment avec le précédent gouvernement qui a dépensé des millions en sondages d'opinion, qui devienne si sensible à cette opinion qui est factice, puisque pour finir là-dessus avec Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas, les sondages sont aussi une illusion statistique, 1000 personnes ne sont pas représentatives de 65 millions, mais on a réussi à construire toute une vision de la société et de ce qui doit influer sur les décisions de la société à partir du numérique, au sens à partir de la mise en chiffre des opinions, de la mise en chiffre, de la mise en visibilité et de la médiatisation.
Une dernière question, puis ensuite, M. Quentin.
Bonjour, Yassir Yeba, je suis multicasquette nommé ici, je suis chercheur indépendant en anthropologie culturelle. Et ce qui m'intéresse, d'abord, je voulais donner une information en Poitou-Charentes. L'année dernière, on a accueilli à Niort Richard Mathieu Stallman, qui est le père du logiciel libre. Et dans sa conférence, ce qui transparaissait tout de suite, alors que c'était d'abord un grand mathématicien, etc., il a fait une conférence de philosophe, hein, pour boucler la boucle avec ce qu'on se dit aujourd'hui. Et je tiens aussi pour les sciences sociales et humaines comme étant des sciences du discernement, et c'est celles qui aujourd'hui font défaut, et un jour c'est ça qui va amener les gens à réfléchir et finalement à supplanter la machine, puisque la machine n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Et suite à cette rencontre avec Stallman, le DUT STID, donc Statistique et Informatique Décisionnelle à Niort, fait une conférence donc le 20 mars prochain à la Clameur sur info-obésité, Big Data et info-obésité. Et déjà, enfin en tout cas moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, mais finalement il n'y a pas d'information, il y a pas d'info-obésité, il n'y a que un défaut de filtre, quoi. Donc apprenez à lire et puis vous lirez des choses intéressantes, quoi. Juste pour revenir à tout ça, derrière finalement, si on prend le critère en fait de la lecture, si on remet de la philo pour remettre du sens dans tout ça, on se rend compte très rapidement tout de même que ce sont, j'allais dire, la pensée anglo-saxonne protestante qui arrive. La réputation est un concept exacerbé par le protestantisme et le capitalisme qui en a découlé ensuite. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le nombre de gens qui pensent ceci de moi, qui font que je suis, etc. Et je peux être un parfait salaud, mais par contre, j'ai une bonne réputation. Et donc, dans un autre contexte, nos protestants à nous, j'allais dire quand je suis un peu musulman, ce sont les salafistes qui, eux aussi, sont sur de la stat. C'est-à-dire, ils sont exactement comme nos protestants nord-américains, où il y a une vertu à l'accumulation, etc. Et ils peuvent être de parfaits salauds, mourir comme le roi du Maroc, de cirrhose du foie, tout en interdisant l'alcool. Mais comme son fils, maintenant, a remis la main sur le commerce de l'alcool, il y a une tolérance, etc. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est à quand, dans les formations auxquelles vous participez, on mettra de la philo, on mettra, des idées pour qu'à un moment donné, les gens, ils ne soient plus les esclaves des machines, mais au contraire, utilisent et s'amusent avec les machines, quoi.
D'accord. Alors, c'est très... Alors, je vais rester corporate, même si on est en vacances. Oui, alors, juste très, très, très pertinente remarque. Hein. Oui, Adam Smith, un des premiers à avoir parlé de réputation, qui était un protestant averti. Ce que dit Max Weber sur les théories du protestantisme et le capitalisme, etc. Tout à fait, ça rentre totalement là-dedans. Au-delà même du fond religieux, c'est vraiment une manière d'aborder les choses. Et d'ailleurs, faut savoir que une des premières choses qu'ont construit Google dans leur complexe était un lieu de prière pour les protestants. Donc ça indique quand même qu'il y a ça derrière. Alors, à quand la philosophie alliée moi, j'en fais un peu. Alors, ça dépend ce que vous entendez par philosophie. Le problème, c'est que moi j'adore la phénoménologie sociale, j'adore tous les courants constructivistes, etc. Le problème, c'est que quand on dit ça aux étudiants, vous verriez leur tête. Surtout des étudiants. En fait, le problème, et là, c'est aussi un combat de fond, pas par rapport aux instances de l'IAE ou de l'université, par rapport aux étudiants eux-mêmes qui viennent chez nous pour faire des masters professionnels, et quand ils font des masters professionnels, ils s'attendent à ce qu'on leur apprenne juste à pousser sur des boutons. Moi, c'est mon grand combat. Ce que je vous dis là, vous inquiétez pas, je leur dis en cours, en tout cas aux 200 et quelques étudiants que j'ai, donc s'il y en a 10 qui s'en souviennent, ça sera une victoire personnelle. Mais c'est quand même de leur dire au final pourquoi presser sur un bouton. Apprenez à presser sur un bouton, quels effets et tout ce qu'il y a, toute la généalogie qui a amené à la création de ce bouton derrière. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est des choses qui n'intéressent pas les entreprises. Moi, j'ai fait une thèse en chiffres, en contrat-chiffres, c'est-à-dire une thèse en entreprise, donc en sciences humaines en entreprise, ce qui n'était pas gagné d'avance, même si j'étais sur des thématiques porteuses, c'était pas gagné d'avance parce que c'est un grand combat avec les entreprises, tout du moins françaises, hein, je sais pas trop avec les anglo-saxonnes ou les autres, de leur expliquer l'intérêt de la recherche. Il faut savoir qu'en Europe, on est, enfin même quasiment dans le monde, on est le pays qui considère le plus mal ses docteurs. On est quand même un pays où il y a un taux d'emploi des docteurs qui est juste hallucinant. Alors que, bon, bah, c'est sans modestie, moi j'ai eu énormément de propositions d'entreprises, notamment anglo-saxonnes, quand j'ai fini mon doctorat, parce que chez eux, ils adorent ça, les docteurs en entreprise. En France, aujourd'hui, si je vous dis cette personne est docteur en sciences humaines, vous pensez à quelqu'un qui est resté dans une bibliothèque toute la journée à lire des livres et qui ne connaît rien à la vraie vie. Et ça... Ça, je ne vais pas faire mon combat contre les ingénieurs, hein, parce que notamment j'enseigne à l'École des Mines de Paris. L'École des Mines de Paris, ce sont les futurs dirigeants de la France, et malheureusement, ce sont des ingénieurs à qui on apprend à penser en case, sans aucune philosophie. C'est assez désastreux, d'ailleurs, pour une grande école. J'ai aussi donné des formations à HEC, je trouve ça assez désastreux. Le problème, c'est qu'en France, on est dans un fonctionnement par élite, et je pense que même si l'université fait déjà bien son travail sur pas mal de points, hein, sans vouloir défendre juste l'université, c'est-à-dire laisse la liberté aux enseignants comme moi ou à d'autres de quand même donner leur vision des choses. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, ça ne passera que par les cercles élitiques. C'est que quand Polytechnique arrêtera d'enseigner l'algorithme et remettra un peu de philosophie, par exemple, sur ça, ou d'anthropologie, d'ailleurs, qui est un gros mot, ne sortez jamais ça, par exemple, à l'École des Mines, ne dites jamais anthropologie. C'est un coup à finir avec du goudron et des plumes. Donc c'est vraiment, je pense, malheureusement, on est encore dans une société où on va devoir passer par, je déteste ce terme, mais par les élites, pour arriver à introduire un peu de philosophie, j'oserais même dire de sciences humaines, dans la vision très ingénierique qu'on a de notre société, puisqu'on est encore aussi un des rares pays à miser sur l'industrie en 2014. Enfin voilà, on a une vision vraiment de l'ingénieur qui bloque malheureusement pas mal d'approches qualitatives, j'oserais dire.
Puisqu'on a un philosophe dans la salle, je ne sais pas s'il veut donner son point de vue.
Non, je n'ai pas de point de vue. Oui, on est tous philosophes, mais moi, je ne suis pas philosophe parce que j'étais professeur de philosophie. Pas la même chose. En plus que quand on est professeur d'anglais, on est anglais. Bon, mais ma formation, moi, ça va de Platon pour commencer jusqu'à Plotin, où j'ai fait une thèse, et ensuite Wittgenstein. Donc, ce qui m'a paru intéressant dans ce que vous dites, j'ai pensé à Platon parce qu'il disait à peu près ceci, on peut faire de la cuisine sans savoir ce que c'est que faire de la cuisine. On peut tailler des vêtements sans savoir ce que c'est que tailler des vêtements. Est-ce qu'on peut faire de la philosophie sans savoir ce que c'est que la philosophie? C'est même peut-être seulement dans la philosophie qu'on peut essayer de répondre à cette question. Il m'a semblé que dans votre cas, où vous faites beaucoup de choses dans un domaine où moi, je suis personnellement très maladroit, ce qui perce dans votre intention, c'est d'essayer au moins de utiliser Google et autres, enfin, bon, tout ce système, sans n'être qu'un utilisateur, quelqu'un qui ferait de la cuisine, d'ailleurs, très bien, hein, sans savoir ce que, est-ce que c'est... Alors, du coup, cette philosophie, c'est une interrogation, c'est une activité et pas une doctrine. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites des idées, parce que moi, des idées, c'est des choses qui sont déjà classées et faites. C'est plutôt une recherche, comment, qu'est-ce qui se passe? Et le deuxième point qui serait intéressant, je crois, comme projet, c'est cette idée que je pourrais résumer comme ça, c'est en cherchant comment faire qu'on trouve ce qu'on fait. Ça me paraît quand même assez intéressant. Donc, moi qui ne suis pas du tout un technicien et que je suis dépassé par tout ce que vous dites de l'utilisation, il m'a semblé que ce qui vous paraissait intéressant, c'est cette part de contingence encore dans le système qui fait qu'on peut penser encore, ou alors on est un robot. Est-ce que oui, j'ai tort?
Non, mais dans le fond, vous avez raison. J'espère qu'on peut encore penser qu'aujourd'hui, les robots, puisqu'au final, Google utilise des robots, hein, et d'ailleurs vient d'investir dans 15 milliards de dollars aussi dans une société de robotique pour construire des robots, hein, parce qu'ils sont fans d'Asimov, etc. Donc il y a quand même tout ça qui perce derrière. Je pense qu'en tout cas, c'est quand même des magnifiques béquilles de l'esprit, l'ensemble de ces systèmes de computation qui pensent plus rapidement que nous et qui en plus sont construits sur le modèle de notre cerveau. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec tout ce qui est cybernétique derrière, c'est de dire on construit des machines qui réfléchissent comme des hommes, alors que ce qui fait la force de l'homme, comme disait Valérie, hein, c'est l'ingénium, c'est le fait justement de pouvoir relier des choses entre elles qui n'ont aucun rapport, et c'est ça qui fait de la créativité, justement, pour venir au terme de créativité.
Je me permets de rappeler quelque chose que vous avez dit à l'instant. Non. Ah, c'est enregistré. Quelqu'un m'avait dit, il y a une trentaine d'années, quelqu'un m'avait dit, il faut bien concevoir qu'un cerveau est un ordinateur. Et je n'avais rien trouvé de mieux, je ne sais pas si je dois en être fier, que lui demander, pensez-vous qu'un ordinateur dirait qu'il est un cerveau? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça?
C'est une nouvelle, c'est un livre de Philippe K. Dick qui s'appelle « Est-ce que les robots rêvent de moutons électriques ?» pour les fans de science-fiction. Qui ça? Non, je pense. Alors ça, c'est vraiment un mouvement, c'est cybernétique. C'est d'ailleurs les philosophes les théoriciens qui influencent le plus les plupart des entrepreneurs de la Silicon Valley sont des personnes qui justement parlent de transhumanisme, c'est-à-dire du fait que l'humain et les robots pourront un jour, enfin les robots au sens large, hein, pourront un jour s'allier pour faire des humains augmentés, etc. Et par exemple, Google, toujours, hein, est en train de construire un cerveau, j'allais dire positronique, mais ça encore une fois c'est de la science-fiction, mais en train de construire un cerveau électronique exactement sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils essayent de relier électroniquement des neurones. Là, ils ont déjà réussi à créer, je crois, 15 milliards de neurones artificiels, et ils ont réussi à créer un robot qui, en regardant des vidéos sur YouTube, reconnaît un chat. Sans avoir jamais vu d'image de chat, arrive à dire « ça, c'est un chat ». Ça paraît une petite avancée toute bête, mais on commence à arriver à des choses assez intéressantes. Malheureusement, je pense que ce qui fait la créativité, et là je dis aussi, sans entrer dans le débat sur rationalité ou affectivité, si on prend la partie rationnelle de l'homme, effectivement, on est dans un système de computation, comme je disais tout à l'heure, avec la médecine, etc., qui peut être reproduit par des robots, par des machines, que des machines peuvent faire. Mais ce qui fait, je pense, notre singularité propre d'espèce humaine, c'est vraiment la possibilité, comme je le disais, voilà, de créer. Et créer, c'est quand même c'est produire du chaos, et c'est, comme on dit, le chaos qui amène la création. Et c'est le fait de pouvoir relier, encore une fois, c'est l'ingénium, c'est le fait de pouvoir relier des éléments qui n'ont rien à voir entre eux et qui permettent de produire soit de l'art dans l'absolu de la création, soit même produire des choses intéressantes. Et si on regarde l'histoire, moi j'adore l'histoire des sciences, si on regarde la plupart des créations, on va dire, pour prendre un terme très à la mode, disruptive, qu'on crée vraiment une rupture, ce sont justement des personnes qui ont eu une pensée assez libre. J'entends qu'ils ne rentrent pas dans des cadres justement computationnels, il faut associer ça dans des cadres, je veux dire, voilà, ingénieriques, parce que c'est vraiment ça. Donc je ne pense pas que l'humain, que l'ordinateur sera un jour un humain. Et c'est d'ailleurs un des défauts des livres de science-fiction, c'est que la plupart des designers qui réfléchissent aux robots aujourd'hui disent qu'il ne faut surtout pas faire des robots qui ressembleraient aux êtres humains, parce que ça nous créera un tel choc et on aura un tel problème d'appropriation qu'on va plutôt partir justement sur des robots qui vont supplanter certaines fonctionnalités physiques qu'on ne peut pas faire, en fait. Mais je pense pas qu'il y aura un jour de comparaison. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs même nos smartphones en sont un bon exemple, parce que vous voyez, maintenant je prends des notes là-dessus, c'est qu'au final, c'est une telle béquille pour l'esprit, pour notre rationalité, en fait. C'est une telle béquille à notre rationalité. Notre rationalité, c'est quand même ce qui demande le plus de, on va dire, d'essence cognitive pour fonctionner. C'est le cartésianisme, c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en place. C'est une logique qui va à l'encontre un peu de la nôtre à diffuser, qui fait que les ordinateurs sont une magnifique béquille et les machines sont une magnifique béquille pour éviter à faire cet effort cognitif. Et aujourd'hui, moi je le vois, alors ça c'est totalement anecdotique, mais avec mon neveu qui a 7 ans et qui a tout de suite le réflexe maintenant d'utiliser soit mon smartphone, soit la tablette de sa mère, soit un ordinateur pour faire certaines choses que nous avant on faisait, comme par exemple retrouver le nom de quelque chose. Lui il sait où c'est, il sait sur quel site c'est maintenant, il sait dans quel fichier de l'ordinateur c'est, par contre il n'arrive plus à se rappeler le nom exactement de ce qu'il cherche. Et je vois même ma fille qui a 6 mois, qui maintenant à force de me voir avec un écran, commence à prendre le réflexe à essayer de tourner les pages comme un iPad, alors que c'est pas un iPad. Enfin voilà, c'est plutôt sur ce côté-là.
Merci. On continue donc avec Jean-Pierre Quentin, de Charente-Maritime, donc voilà, on fait le tour de la région, sur le thème au-delà du soft power, qu'on avait un peu abordé d'ailleurs dans les journées Créativité Territoire avec Pierre Guédier, et la notion de quel smart power. Donc quelques distinctions. Et je crois que vous avez fait partie d'un think tank, donc j'en profite pour excuser Amaury Bessard, qui a eu un décès d'un proche dans sa famille hier. Donc malheureusement, il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Mais vous avez partie d'un think tank, vous peut-être en parler aussi.
Même d'un certain nombre. Merci. Sur la dernière question, je vais peut-être ajouter un tout petit complément rapide. en forme de, d'expérience personnelle. Moi, ce n'est pas les mines, c'est l'École nationale des ponts et chaussées, où j'ai sévi il y a quelques années. Et ce que m'avait demandé le directeur des études de l'école, c'était de faire 4 heures d'intervention en fin de cursus sur le thème président mode d'emploi. Et il m'introduisait en disant, voilà, messieurs, vous avez fait beaucoup d'équations pendant vos études. Toutes celles que vous avez faites à Polytechnique vous suffisaient pas, donc vous êtes venus ici en faire encore un peu plus. Et maintenant, vous êtes incollables sur les équations de toute taille, de toute forme, de tout modèle. Par contre, vous allez devenir président ou patron de ceci ou de cela, et ça, on ne vous y a pas préparé du tout. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a demandé à Quentin de venir vous déniaiser pendant une matinée. Alors, inutile de vous dire que 4 heures contre le nombre d'années d'équations, je ne faisais pas le poids. Mais plus fondamentalement, par rapport aux propos de tout à l'heure, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes d'appétence sur les, je ne sais pas combien ils étaient, 300, 400 dans une salle comme ça, il y en a qui lisaient leur journal, il y en a qui... Et il y a une petite poignée, simplement, alors, qui était vraiment passionnée, qui avait l'air de découvrir la vie, qui, lorsque les 4 heures étaient passées, venait me poser des questions, me essayer de dialoguer. Et j'ai chaque fois été frappé par ce décalage majeur entre les quelques rares motivés et ceux qui considéraient tout simplement que ce que je racontais par principe, hein, c'est pas seulement parce que j'étais nul, c'était peut-être aussi un peu pour ça, mais par principe, le thème ne leur paraissait pas pertinent tel qu'il était énoncé. L'autre élément de témoignage, donc voilà, je veux dire, c'est à mon avis important hein, de sortir de cette approche un peu technicienne. Malheureusement, c'est pas gagné. Le deuxième point, c'est alors toujours mon expérience de prof, cette fois dans les écoles de commerce. Enseigner la philosophie, non, je ne l'ai pas fait. Par contre, je me suis battu dans plusieurs écoles de commerce pour enseigner la méthode, avec pour objectif de dire 3 mots clés, la rigueur, le discernement et la pensée autonome. Ça peut paraître évident comme ça, mais si vous allez dans les grandes écoles et en particulier dans les écoles de commerce, vous apercevez que la rigueur a ses limites, que le discernement est absent et que la pensée autonome, c'est presque un gros mot. Enfin, c'est en tout cas ceux qui sortent de classes préparatoires ont été déformaté hein, à ce titre-là. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est un combat extrêmement difficile, mais par contre, quand on dispose d'un nombre suffisant d'heures de cours avec eux pour aborder ça, on a des résultats impressionnants. Plus encore, je pense, dans les écoles de commerce que dans les écoles d'ingénieurs, pour une raison de rigueur aussi du système éducatif, je dirais. Dans une école d'ingénieurs, on met en œuvre des lois mathématiques, des théorèmes, des toutes sortes de choses qu'on a appris et dont on connaît la définition. Dans une école de commerce, je me suis livré un grand nombre de fois à un exercice consistant à demander des définitions des mots qu'on emploie. C'est quoi la stratégie? C'est quoi l'information? C'est quoi la communication? C'est quoi le marketing? Etc, etc. Je préfère pas vous donner les résultats, mais vous aurez deviné par vous-même. Alors, soft power, smart power. Mon éclairage est celui de quelqu'un qui a des points communs avec mon voisin de gauche, de droite ou d'ailleurs, parce que on le fait pas forcément de la même façon, mais on fait tous les deux notamment du lobbying. Lui a une particularité quand même, c'est que c'est le seul homme de l'ombre qui soit toujours sous les feux de la rampe. Enfin bon. Donc moi, je suis un homme de l'ombre dans l'ombre. Donc, il m'a fait gagner beaucoup de temps puisque tout ce qu'il a dit, j'y souscris à peu près, même si je ne rejoins pas son, cynisme, ce qui ne veut pas dire que je récuse Machiavel. Bon. Ce que je vous propose, c'est de remonter peut-être à certains ressorts qui sont derrière ce qu'il nous a dit. Et ce, à partir aussi de ce que j'ai pu capter dans la façon dont vous réagissiez quand il parlait. Alors, je peux me tromper dans mes interprétations, etc., mais je vais faire un petit test pour commencer. Imaginez que vous marchez dans la rue, que vous rencontrez une personne que vous ne connaissez absolument pas et que vous voulez lui extorquer 20 centimes ou 10 ou 50, peu importe le... Bon. Comment est-ce que vous allez faire? Je parie, mais peut-être que je me trompe, que vous allez lui dire, voilà, c'est affreux, on m'a volé mon sac à main ou mon portefeuille, ou j'ai besoin de téléphoner ou je ne sais pas quoi, ou vous allez expliquer que ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé et que ça devient vital, ou que. Bon. Est-ce que je me trompe?
Non, je suis pas. Radicales, hein.
Non mais. Non, alors, ouais. Là, ça serait le hard power qui n'est pas à l'ordre du jour. Et donc, statistiquement, cette façon de procéder, selon qui vous êtes, selon comment vous y prenez, selon à qui vous adressez, etc., vous donnera une chance de succès de 0 à 20%. Grand maximum. Et quand 20%, faut vraiment que vous soyez doué. Ou que vous ayez affaire à quelqu'un de bonne composition. Comment est-ce que vous pouvez passer exactement dans les mêmes circonstances, hein, la même rue, le même trottoir, la même personne, comment est-ce que vous pouvez passer un taux de l'ordre de 95, 16, 17, 18%? Tiens, je pensais que vous... Non, vous restez dans l'argumentation là. Alors que justement, puisqu'on parle de soft power, d'influence, etc., là où je veux en venir avec mon petit exemple idiot, c'est que il faut penser autrement. Non, je pensais que vous connaissiez ça. J'avais pris un exemple. Vous lui demandez l'heure. Pardon, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Je suis désolé, ça m'embête de vous demander ça, mais vous n'auriez pas 20 centimes, et là, vous pouvez même aller jusqu'à 2 euros, il n'y a pas de problème, ça marche. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez commencé par établir la relation, hein, et que quand vous demandez les 20 centimes, vous les demandez à quelqu'un que vous connaissez déjà, alors que sinon, vous êtes un inconnu. Ah, c'est ballot, mais ça marche. Autre exemple, alors, puisque celui-là, je pensais que vous... on roule sur une petite départementale, et puis, on aperçoit une autostoppeuse. Et donc, mesdames, vous trouvez qu'elle a un gentil sourire, qu'elle est sympathique. Ah oui, tu dis, elle a aussi un petit short sympathique. Bon, quelles que soient les motivations, vous arrêtez. Dites, on va quand même pas la laisser là. Vous aurez la fenêtre. Et vous allez à Jaune-Éclan, ça tombe bien, moi aussi, on pourrait faire le chemin ensemble, etc. Et à ce moment-là, sortent deux mastards de derrière le buisson, avec un sac à dos, et pas très propre sur eux, etc. Et donc là, vous pourriez très bien dire, ah mais au fait, excusez-moi, je suis vraiment pressé, au revoir, elle est toujours dehors. Mais, en fait, vous allez quand même... prendre ces passagers complémentaires dont vous n'avez absolument pas envie, vous avez l'air de douter. Vous partiriez. Bon, vous êtes l'exception, il en faut. Pourquoi? Quel est le point commun à mes deux petits exemples? C'est un ressort élémentaire qui s'appelle l'amorçage. On commence par amorcer celui dont on veut obtenir quelque chose, par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherche à obtenir. Et ensuite, on va jouer sur d'autres mécanismes, par exemple la persévération. J'ai commencé à m'engager dans une direction, je ne veux pas me déjuger, donc, etc. C'est une branche de la sociologie qui s'appelle la psychologie sociale, qui étudie tout ça. Les chercheurs en psychologie sociale s'amusent comme ça à faire recopier l'annuaire à des gens, mais comme ils sont vicieux, ils se contentent pas de leur faire recopier l'annuaire. Ils les amènent à dire que c'était une activité très intéressante. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là ? Simplement parce que si vous prenez deux groupes auxquels vous faites faire cet exercice, un groupe auquel vous dites « bon voilà, je sais bien, c'est pas forcément drôle de recopier l'annuaire, mais ça serait sympa de le faire, etc. » et un autre groupe auquel vous dites « bon, pour une étude scientifique, ça nous intéresserait que vous recopiez l'annuaire, mais vraiment, vous êtes libre. Je comprendrais très bien que vous n'ayez pas envie. Non, j'y vais. Mais à tout moment, vous pouvez revenir en arrière sur votre engagement et n'hésitez pas, si vous en avez ras-le-bol de recopier. Bon, très bien. Après, le premier groupe dénoncera le manque d'intérêt absolu de cet exercice et que vraiment recopier l'annuaire, c'est pas la joie. Et l'autre dira... mais c'est, en fait, tu devrais essayer parce que c'est pas mal. Bon, pourquoi ? Parce que on a pris librement une décision stupide, mais on l'a prise librement. Et bon, on n'a pas le temps de développer tous ces ressorts, mais une des conséquences de ce que je viens de dire, c'est que plus on se sent libre, j'ai pas dit plus on est libre, j'ai dit plus on se sent libre, et plus on est manipulable. Ça peut paraître paradoxal comme ça, mais si vous allez dans des sociétés totalitaires, il est beaucoup plus difficile de manipuler les gens. Alors, tout ça, c'est simplement pour dire qu'il y a tout un ensemble de processus, notamment des processus psychiques, mais pas uniquement. Il y a aussi des processus politiques, c'est-à-dire quelles sont vos ambitions, qu'est-ce qui vous fait courir en termes professionnels, de vie sociale ou autre, etc., qui interviennent énormément dans vos relations avec les autres. Et par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les mécanismes d'influence, je voudrais dire deux, trois petites choses à propos de la communication d'influence. Alors, pas la communication au sens réducteur, tel qu'on nous l'enseigne, tout bêtement. Vous avez tous, comme moi, suivi des cours ou des formations sur la communication. Alors, on vous dit, les quatre mots-clés de la communication, c'est l'émetteur qui adresse un message à une cible par l'intermédiaire d'un vecteur. Alors, émetteur, message, cible, vecteur... En réalité, ça, c'est une démarche qui consiste plus à informer vers qu'à communiquer avec. Donc, quand je parle de communication, je parle au sens plein, c'est-à-dire une communication qui soit interactive, qui ne se limite pas à un contenu qui se manifeste avec des mots, etc., etc. Et donc, pour faire simple et aller vite, je dirais qu'il y a trois étages de communication. Le premier étage, c'est la communication de conviction au sens de convaincre ou de persuasion. C'est-à-dire que je souhaite vous convaincre de quelque chose, vous convaincre qu'une idée est bonne, ou vous convaincre qu'il serait bien de faire ceci, ou etc. Et donc, je considère que votre cerveau rationnel commande vos décisions qui elles-mêmes déterminent vos actes, et donc je vais vous expliquer. Et donc quand mes explications auront été claires, auront été bonnes, auront été convaincantes, vous ferez ce dont j'essaie de vous convaincre de l'importance ou de la pertinence. Le deuxième étage, c'est la communication d'influence, c'est-à-dire que là, on fait quelques détours. Là, on passe par les processus psychiques et politiques dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, Machiavel, s'il cherche à vous vendre cette bouteille d'eau minérale, il ne va pas vous dire elle est belle, elle est pas chère, elle est bonne pour votre santé et tout. Il va travailler sur votre appétence pour la bouteille. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas de faire l'article. Ce qui l'intéresse, c'est que vous veniez vers lui, que vous soyez prêt à tout. Puis disant, je veux.
Parce que j'ai augmenté le chauffage.
Non, ça c'est pas une, c'est pas un réflexe de lobbyiste.
Si.
mais donc en plus qu'il a ouvert le chauffage à fond, il aura. Ah bah oui, mais c'est trop simpliste comme processus là. C'est pour ça qu'il faut pas me casser mes coups. et donc. Non, il est vicieux. Hein. J'avais déjà remarqué, mais pas à ce point-là. Et donc, à ce deuxième étage, hein, on va travailler sur l'inversion de la relation. Si je suis solliciteur, je vais faire en sorte de devenir sollicité. Bon, c'est un des mécanismes parmi bien d'autres, mais c'est pour illustrer ça. Et puis, il y a un troisième étage dont on reparlera après parce qu'il n'est pas tout à fait de même nature. Et là, on est dans des processus qui sont plus des processus de coopération. Et d'une certaine façon, on passe de, je dirais, de la logique de leadership à la logique de partnership. C'est un peu plus compliqué, mais puisque je suis dans les simplifications... disons qu'en gros, le hard power, c'est-à-dire j'ai une capacité de coercition sur vous et donc vous allez faire ce que je vous dis de faire, c'est plus proche de mon premier étage. Le soft power, c'est ce qui consiste à faire faire aux gens ce que sans vous ils n'auraient pas fait par des détours qui... rendre cette démarche possible. Et le smart power, c'est une démarche d'une autre nature dont je reviens, sur laquelle je reviendrai après. Alors, je pense que ces trois étages, actuellement dans la société française, on est au niveau des comportements des acteurs vous et moi, hommes de la rue, on est plutôt au premier étage, alors que le jeu qui se joue dans la sphère politico-médiatique est au deuxième étage. C'est-à-dire que on n'arrête pas de dire que les grands messes télévisées de 20 heures sont soit des diversions, soit de la désinformation, soit ceci, soit cela. C'est surtout fondamentalement de la communication d'influence qui essaie de se faire passer pour de l'information. Bon, je fais court. Donc, actuellement, un des gros problèmes que nous avons, c'est non seulement ce décalage entre, je dirais, les représentations du monde que peuvent avoir les individus et la réalité des pratiques d'un certain nombre d'institutions, mais c'est aussi le décalage entre cela et l'environnement dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes dans un environnement, bon, une société horizontalisée qui fonctionne de plus en plus en réseau, dans laquelle la gouvernementalité, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent les pouvoirs publics, évolue. Le management également, le comportement des acteurs économiques et sociaux. Si je vous parle de coopétition, par exemple, ça vous parle ? Oui. Et donc, le fait qu'on soit à la fois dans des situations de concurrence et dans des situations de coopération, hein, et que Peugeot et Toyota peuvent faire un moteur ensemble, mais être pour autant concurrents sur d'autres marchés, pour prendre une situation très simple. Bon. Et surtout au niveau des rapports entre le public et le privé, où les médiations et la gouvernance prennent et surtout ont tendance à prendre, ou encore devrait prendre, des formes différentes. Et là où le décalage est important avec nos représentations mentales, c'est que on continue à croire que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on délègue à un chef et que c'est le chef qui prend les décisions, alors qu'on est dans un système complexe dans lequel il y a une multitude d'acteurs qui jouent dans tous les sens et le pouvoir est une résultante de ces différents comportements d'acteurs. Ce qui a une importance considérable en matière de lobbying, par exemple, dans la mesure où il y a très longtemps, le lobbying, qui s'appelait à peine comme ça, ça consistait essentiellement à avoir des bons dossiers et de savoir à qui les présenter et d'avoir une certaine capacité à le faire dans des conditions assez convaincantes.
Des bons dossiers, c'était... des bons amis, quoi.
Ouais, voilà, des bons dossiers, des bons amis, et ce qu'on appelait à l'époque un entre-gens. Hein. Et donc, c'est, disons, les relations publiques à la papa, hein, c'est-à-dire qu'on était au premier étage, quoi, en gros. Et puis, avec la complexification de tout ça, est apparu mon deuxième étage, ou plutôt s'est développé, parce que les trois étages ont toujours coexisté, mais c'est le rapport entre les trois qui change. Et le lobbying est devenu beaucoup plus une affaire de stratégie, une affaire de jeu d'acteurs. Et si j'avais un tableau, mais je n'ai pas de tableau, ceci étant, on va dessiner même si on n'a pas de tableau, je dessine une flèche là, vous voyez, une flèche horizontale. Ça symbolise la décision que s'apprête à prendre les pouvoirs publics si on ne fait rien. Et puis, au-dessus de cette flèche horizontale, je vais dessiner une flèche oblique qui symbolise ce que moi, peu importe de savoir qui je suis moi, une entreprise, un groupe de pression ou autre, ce que moi je souhaiterais. C'est-à-dire que il y a une différence d'angle hein, entre les deux flèches. Et donc, on a tendance à penser que le lobbying, c'est la démarche d'influence sur le décideur pour que la flèche qu'il avait mise horizontalement ait un angle de 15 degrés comme je le souhaiterais. Donc le lobbying serait cette pression de bas en haut. En fait, c'est une représentation complètement erronée, tout simplement parce que le décideur n'existe pas. Si la décision était prise par un décideur, d'une part ça se saurait, d'autre part les choses seraient simples. Mais en réalité, il faudrait dessiner plein de petites flèches qui vont dans tous les sens. C'est les multiples acteurs qui, à des degrés divers, dans des positions diverses, etc., contribuent à faire que la décision se prendra plutôt dans ce sens-ci ou plutôt dans ce sens-là. Et une résultante, ben, c'est ce qui résulte d'un ensemble de forces. Faire du lobbying sur une résultante, exercer une pression sur une résultante, n'aurait aucun sens. Par contre, ce sur quoi on va travailler, c'est sur les petites flèches en question. C'est-à-dire que le lobbying va consister à identifier les multiples parties prenantes, à les qualifier, donc savoir ceux qui vont dans un sens proche de ce que je souhaite, ceux qui vont à l'encontre, etc., ceux qui sont plus ou moins importants, influents, etc., ceux qui ont une capacité d'évolution, je peux les retourner ou pas, etc., etc. Et en fonction de tout ce que j'aurai identifié dans ce travail dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui est ce travail d'information, mais vous voyez, de façon très approfondie, en fonction de tout ça, je vais faire en sorte que chacune de ces petites flèches aille dans le sens souhaité, ou si je ne peux pas les faire évoluer, faire en sorte de les neutraliser, etc., etc. Donc, si j'essaie de relativiser les choses de cette façon, c'est dans un premier temps pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples que je vais lui expliquer, il comprendra et il agira autrement. Hein. J'ai commencé par dire, il y a toutes sortes de processus sur lesquels il est important de travailler pour faire évoluer les choses. D'autre part, ce que j'essaie de dire maintenant, c'est que ces processus interviennent pas seulement dans les relations entre acteurs, mais interviennent dans une logique de système. Et le système n'est pas le même selon les moments, selon les endroits, selon les époques. Tu ne nous as pas dit, mais tout le monde le sait, tu es conseiller d'un certain nombre de chefs d'État dans des pays où...
nouveaux démocrates.
Voilà, nouveaux démocrates, mais qui sont plus nouveaux que démocrates parfois. Et donc,
bien commencer par quelque chose.
Voilà, et donc le chef reste plus égal que les autres. Et donc dans ce genre de contexte, il est important d'avoir l'oreille du chef, du président, parce que c'est plus facile d'obtenir la décision si on s'adresse à lui que si on essaie de jouer des jeux subtils qui n'existent pas. Par contre, dans des contrées comme les nôtres, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Et aujourd'hui, une des difficultés de nos situations, c'est que il y a un décalage, ou même plusieurs décalages, entre le système dans lequel on se trouve, qui est un système complexe alors qu'on essaie de le ramener à quelque chose de simple. On est dans un système fluide et on essaie de le voir comme, de le traiter comme un système pyramidal. Système y compris les dimensions technologiques au sens large du terme. Article 1, système. Environnement, disons, environnement général. Article 2, les institutions fonctionnent selon des logiques qui peuvent être plus ou moins évoluées. Article 3, les acteurs peuvent avoir des relations plus ou moins conscientes et plus ou moins impliquées dans le jeu dans lequel on joue. Aujourd'hui, nous acteurs ne sommes pas conscients, avons des comportements qui ne sont pas cohérents avec le système institutionnel dans lequel on est, et ce système lui-même n'est pas cohérent avec l'environnement général. Pour prendre une image simple, l'environnement général, c'est quelque chose de fluide, quelque chose qui est horizontal, qui est en réseau, etc. Mais nos systèmes institutionnels fonctionnent comme des pyramides. Nos représentations mentales d'acteurs sont plus cohérentes avec ce fonctionnement du système, et donc nous continuons à attendre que le président de la République règle tous nos problèmes alors qu'il n'en a pas la capacité, etc., etc. Voilà ce que je veux dire. Et ceci nous ramène à notre segmentation soft power, smart power. Donc on a vu rapidement, mais je pense que vous êtes tous au clair sur ce qu'on mettait derrière la notion de soft power. Pas dans les relations internationales, la géopolitique, la diplomatie, c'est autre chose, mais on a transposé. Et donc le soft power, c'est cette capacité d'influence sur les comportements des autres acteurs pour les amener à faire autre chose que ce qu'ils auraient fait. Le smart power, c'est justement cette capacité qu'ont les acteurs à jouer dans le système dans lequel ils évoluent, en y prenant leur part de responsabilité, en s'impliquant, en s'engageant et en s'accordant avec les autres, dans une logique dans laquelle chacun se préoccupe à la fois de ses propres enjeux, de ses propres objectifs, de ses propres intérêts ou préoccupations, mais en même temps, il se préoccupe de ceux des autres par souci d'efficacité, et en même temps, chacun se préoccupe de faire grossir le gâteau, disons, pour faire simple, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne soit pas dans un jeu à somme nulle, mais dans un jeu à somme positive, etc., etc. Notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est que ce que je viens de dire là, intellectuellement, on le sait à peu près. Dans la pratique, on ne fonctionne pas de cette façon-là du tout. On attend toujours du chef, du président, du patron, de l'élu, qu'il prenne la bonne décision. On continue à faire pression sur lui pour qu'il la prenne, au lieu de réaliser que en fait, nous devons, comme tu disais tout à l'heure, agir sur le jeu et non pas seulement dans le jeu. Parce que c'est le jeu qu'il faut faire évoluer. Et ça, tant que nous ne l'aurons pas intégré dans nos comportements, nous resterons dans une logique de soft power sans passer à la logique de smart power, avec le fait que dans le soft power, ben, je peux tout au plus influencer le chef et non pas participer à la décision comme dans la logique de smart. Et fondamentalement, si on a distingué trois types de power, le hard et le soft ont en commun d'être dans une logique de leadership. En tout état de cause, on a affaire à des partenaires qui sont avant tout ou en même temps des adversaires, alors que dans le smart power, on est dans une logique qui a changé de nature parce que on est passé du leadership au partnership ou de situations dans lesquelles on travaille essentiellement sur des processus de pouvoir à des situations dans lesquelles, bien sûr, on a toujours affaire à des processus de pouvoir parce que tant qu'il y aura des humains bipèdes verticaux, on aura en permanence des préoccupations et des comportements et des attitudes, etc., de pouvoir, mais aussi et avant tout de coopération. Vous voyez la dose d'utopie qu'il y a dans mon propos. Hein. Une utopie, c'est doit d'abord être énoncée pour un jour devenir une réalité. Bon. En tout état de cause, si aujourd'hui nous avons autant de difficultés dans la gouvernance des institutions, dans la façon de trouver un certain nombre d'équilibres politiques, sociaux, avec leur traduction économique ou autre, c'est en grande partie à cause de ce hiatus qu'il y a entre environnement, système et acteur, ou environnement, institution et acteur, dans ce sens-là. Alors, smart power, incidemment, une autre façon d'employer le terme, notamment en géopolitique et diplomatie, c'est de dire le smart power, c'est une combinaison de hard power et de soft power. Pardon, je sais pas comment, je crois que j'ai mal commencé ma phrase. Je voulais dire le smart power est une combinaison des deux autres. Hein. Et donc ceci est une autre définition et donc qui ne s'applique pas, bien évidemment, à ce que je viens de dire hein, ou à laquelle ce que je viens de dire ne s'applique pas. Juste pour terminer, donc c'était le sens de mon propos, c'est celui-là. Essayons de résoudre les contradictions qu'il y a entre ces trois niveaux. L'aspect think tank, alors je vous parlerai pas des think tanks en général, mais un think tank, bon, comme son nom l'indique, hein, c'est une espèce de boîte dans laquelle il y a des idées, sauf que ça n'est pas simplement un réservoir au sens où il contient des idées, c'est un lieu où on les élabore. Hein. Donc si notre complice avait été là aujourd'hui, il vous aurait parlé de think tanks qui ont une certaine visibilité institutionnels et qui apparaissent sur la place publique. Il y a effectivement d'autres formes de think tank et juste le petit élément d'exemple ou d'illustration à la charnière du think tank et du lobbying que je pourrais évoquer pour terminer, c'est lorsque j'ai commencé à travailler dans ce think tank au milieu des années, à la fin des années 70, c'était l'Institut de l'entreprise. Alors, l'Institut de l'entreprise est né de la section études générales du Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise. C'est intéressant parce que c'est en réalité le premier think tank patronal français. Et pendant quelques décennies, c'était le seul. C'est-à-dire que, à l'initiative de Georges Villiers, un président du patronat institutionnel, et de quelques autres hommes, dont Gaston Berger, qui était le père de la prospective, et le docteur Gros, le père des conseillers de synthèse, une réflexion est née, consistant à dire, dans l'après-guerre, nous avons mis en place un système d'économie dirigée à la française qui est catastrophique parce que le gouvernement décide de tout, les entreprises n'ont aucune capacité d'initiative d'autonomie et c'est désastreux. Il faut faire en sorte que l'économie laisse un peu plus de marge d'initiative aux entreprises. Voilà, la version très résumée de ce qu'était, l'idée de base de ce laboratoire d'idées. Et donc, on a travaillé. Enfin, j'y étais pas à l'époque, bien sûr. Ils ont travaillé dans les années 50-60 sur l'élaboration de tout un corpus d'idées, de propositions concrètes, etc., à faire passer auprès des pouvoirs publics. Donc, l'aspect think tank, c'est l'élaboration de tout ça. L'aspect lobbying, c'est la vente de tout ça auprès des intéressés, des décideurs. Dans la deuxième moitié des années 70, le patronat attendait et redoutait l'arrivée de la gauche aux législatives de 78. Bon, en fait, ça s'est produit à la présidentielle de 81, mais ils étaient très inquiets parce que la représentation qu'avaient les socialistes de l'entreprise et du fonctionnement de l'économie de marché leur laissait penser que ça se passerait pas très bien pour les entreprises et il fallait trouver le moyen de faire leur éducation économique, je dirais, microéconomique. Et il est apparu utile à l'époque d'institutionnaliser ça, d'où la création en 1975 de l'Institut de l'entreprise. Et ça a été la principale fonction de l'Institut pendant une grosse dizaine d'années, faire en sorte que on désindexe l'économie française, de faire en sorte que on réhabilite l'image de l'entreprise, etc., etc. Donc c'était une fonction de think tank. Ce think tank français, bien évidemment, était en relation avec d'autres, de différents autres pays. Nous avions des partenaires européens et outre-Atlantique, notamment aux États-Unis. Et là, j'ai été frappé, moi, par la façon dont fonctionnaient les think tanks américains, c'est-à-dire des grandes usines avec de gros moyens, notamment grâce à leur système fiscal, ils ont des moyens de financer les fondations qu'on n'a pas chez nous. Et nous avions parmi nos partenaires le Committee for Economic Development qui avait une vision très libérale de l'économie, mais libérale au sens de ce qu'on a connu dans les années 80-90, hein, c'est-à-dire pré-réganienne, qui ne nous convenait pas beaucoup parce que même si nous, je dirais patron français, l'Institut de l'entreprise, c'était les présidents des 150 plus grosses entreprises de France. Donc, même si on avait une vision plus libérale les fonctionnaires ou élus auxquels on avait affaire, on n'était quand même pas pour autant libéral au sens réganien du terme. Et donc, la première fois que j'ai vu ça, je me souviens, c'était une réunion à Madrid, organisé donc par notre homologue think tank espagnol. Donc ils étaient très fiers d'être les organisateurs de tout ça. Les Américains leur avaient préalablement donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir mener une bonne réunion, c'est-à-dire définir le thème, donner quelques axes de travail, donner des éléments d'objectifs, donner des éléments de méthodologie sur la façon de travailler pendant les 2, 3 ou 4 jours, je sais plus, où on était ensemble, etc., etc. Et puis on a gentiment discuté, dit toutes sortes de choses, mais lorsqu'il a fallu faire la synthèse de tout ce qui s'était dit, ben, comme par hasard, la synthèse était déjà écrite, et bien évidemment, nous, travail élémentaire, voilà. Sauf que nous, on était complètement niais là-dedans. C'était dans les années 70. Bon. Et donc, j'ai été très frappé par l'efficacité du rouleau compresseur, alors que chez nous, ce genre de choses, on n'avait jamais vu. J'ai allumé un contre-feu, en ce sens que pour l'opération suivante, je me souviens, le thème, c'était pour une Europe ouverte sur le monde. Nous avions à faire un manifeste commun de tous nos organismes qui plaidait en faveur d'une forme de libre-échange. Toute la question est de savoir quel type de libre-échange. Est-ce que on voulait du libre-échange pur et dur façon cow-boy, ou est-ce que on voulait du libre-échange façon Montebourg, c'est-à-dire ni libre ni échange, ou est-ce que on cherchait quelque chose, où plaçait-on le curseur entre les extrêmes? Et à ce moment-là, nous avons constitué un mini-groupe entre les Français, les Anglais et les Allemands. On a désigné un rapporteur pour chacun des trois organismes. J'étais le Français. Et ensemble, nous avons élaboré une ébauche de manifeste que ensuite nous avons fait adopter par l'ensemble des Européens. Et ensuite, nous avons travailler avec les Américains sur cette base-là, ce qui fait que le résultat final, bien évidemment, a été beaucoup plus proche de ce que nous souhaitions. Deux solutions extrêmes, juste pour illustrer au passage le fait que dans les think tanks, il n'y a pas que les choses visibles, et en France, on n'en a d'ailleurs pas beaucoup, l'IFRI, par exemple, l'Institut français des relations internationales en est un, mais ça, c'est des think tanks officiels, institutionnels, académiques, mais il y a aussi des organismes qui ont moins pignon sur rue, qui sont plus dans l'ombre, mais qui travaillent un peu plus dans la logique de ce que je viens de dire. Voilà le petit élément de témoignage complémentaire que je voulais ajouter sur les sites.
Merci de ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Puisqu'on parlait de l'entreprise, tu veux intervenir, Jean-Yves? Sinon, je ferai appel à votre témoignage aussi, puisque vous êtes dans une logique apprendre à entreprendre, donc par rapport à l'entreprise et dans un lycée, comment ça se passe?
Donc, je m'appelle Marine Moulin, je suis PDG de la mine entreprise Try by Again au lycée Victor Hugo. Et donc, dans un but de l'association Entreprendre pour apprendre, on a créé une entreprise qui a pour but de récolter des vêtements, de les recustomiser, de les revendre après, dans un but un peu lucratif, pour après en reverser à des associations caritatives. T'as quelque chose à ajouter ? Non, pas du
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ça s'inscrit dans une logique apprendre à entreprendre, où le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, apporte aussi son concours. Je ne sais pas s'il y a un chef d'entreprise avec vous, ça se passe uniquement dans le lycée?
Non, on a un parrain qui nous suit de Motillon Assurance, Monsieur Boyadjan, qui nous aide pour ce projet, parce qu'on n'a pas les bases d'entreprise, donc c'est utile.
Il y a un chef d'entreprise qui vous accompagne, enfin. Donc c'est un témoignage pour dire que le think tank Institut d'entreprise a peut-être eu quelques effets de ce côté-là. Jean-Yves, tu voulais intervenir?
Enfin, donc Jean-Yves Pinault du collectif Ville Campagne. Alors, juste peut-être deux petites remarques au préalable. Première concernant ces trois formes de power, là. Moi, définitivement, je suis pour Austin Power. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que alors, pour faire le lien créativité-territoire, lobbying, influence, c'est à toi que je pose cette question, Jackie. Je me dis, mais en fait, cet après-midi, c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire reconnaître cet ovni qui est créativité et territoire, ou c'est pour essayer de trouver du lien entre créativité-territoire, lobbying? Bon, bref, non, là, je déconne. Hein. Pardon, excuse-moi. Ouais, je vais me ressaisir. Sur ces questions, enfin, donc le collectif, on à la fois on est au quotidien en contact avec des gens qui souhaitent se rendre mobiles de manière professionnelle et résidentielle, et à la fois avec des territoires, donc des collectivités qui réfléchissent à comment mieux maintenir, mieux accueillir des populations, des compétences, mieux se développer de manière, nous en tout cas on le souhaite, un peu durable et un peu harmonieuse. Bref, et il nous semble qu'aujourd'hui, on est dans une société qui s'est extrêmement, à la fois, a connu beaucoup de mutations rapides, et à la fois s'est ossifié, quoi, c'est un petit peu calcifié. D'où, pour nous, cette nécessité vitale aujourd'hui de repasser par de la créativité, c'est-à-dire la capacité, finalement, à refuser des choses. Et à être dans une forme d'affranchissement plutôt que d'asservissement. Et ce que j'ai dit là me avec les propos que vous teniez sur Google, il me semble qu'on est pile poil là-dedans avec à nouveau le sentiment d'urgence que de relancer sur les territoires, qu'ils soient urbains ou périurbains ou ruraux, ces formes d'éducation populaire, puisque notre éducation nationale, finalement aujourd'hui, rate pour la plupart les enseignements les plus importants, ceux qui feront qu'un individu pourra s'émanciper. En quelque sorte. Hein, je caricature à gros traits. Bien évidemment, on a besoin des maths. Bien évidemment, on a besoin de la géo, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est le décryptage de ce qui nous éviterait d'être asservis, on l'a pas, finalement. Hein. On ne l'avait pas du temps de la télé, ni de la radio. Pour autant, c'était peut-être encore plus massif que Google. Hein, c'était moins pernicieux. La voix de son maître, quand même, Enfin, voilà, il y avait une forme d'asservissement qui était patent, hein, et qui rejoint, me semble-t-il, les propos de Monsieur Quentin là sur finalement la croyance toujours et encore, et notamment en France, de l'homme providentiel. Enfin, on est toujours sous Napoléon, quoi. Enfin, on pense toujours que effectivement on est sur du providentiel. Bref, ce qui moi me chagrine beaucoup, c'est que en termes de créativité et territoire, c'est que on est de moins en moins dans des dispositifs qui permettent cette créativité, qui permettent en fait à la controverse, à l'autre, à l'alternative d'exister. Voilà. Donc il y a une normalisation qui me fait penser à la binarisation, la numérisation finalement de l'information et de notre entourage et de notre monde. C'est le 0 ou c'est le 1. C'est-à-dire qu'on est en train d'effacer petit à petit la possibilité même d'une complexité. Or, aujourd'hui, on sait, si on veut s'intéresser à notre devenir, notre présent, notre devenir, que si on n'est pas en capacité de saisir de cette complexité, on aura des outils qui seront des outils qui nous feront passer à côté. Voilà. À côté de ce qui est important, à côté de cette complexité. Et cette complexité-là, effectivement, on peut parier que pendant longtemps, peut-être, les robots ont du mal à sortir du chaos, sortir du néant, quelque chose geste que l'on appelle la création. Hein. C'est peut-être ça. Et donc, finalement, la question de la créativité et des territoires, c'est comment on organise en fait le bordel, comment on organise le chaos pour qu'il soit fécond. En fait, et ça, c'est des vraies réflexions qui, à la fois, doivent naître dans des think tanks. Sauf que des think tanks aujourd'hui qui soient capables d'organiser ce bordel, le penser et d'organiser le chaos, j'en connais plus trop. Hein. Et ensuite, moi, je pense que le devenir d'un think tank, c'est le tout doux tank. Hein, c'est le faire. C'est des laboratoires sociaux qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Il n'y a pas que les laboratoires 3D, il n'y a pas que les laboratoires techno. Aujourd'hui, la techno, justement, c'est ce qui va ou c'est ce qui risque d'être notre propre outil d'asservissement. Donc, oui à la révolte via la philo, comme tu dis. Voilà. Et l'anthropologie, etc., etc. Alors, moi, il me semble que là-dessus, il y a des enjeux. Voilà. Le lobbying, je suis désolé, mais pour moi, c'est une humanité pauvre. Voilà. Pour moi, je pense que et c'est pas son dernier lieu, en tout cas, me semble-t-il. Je pense que les nouveaux lieux pour poursuivre cette aventure qui nous semble être s'inscrire dans une forme d'humanité, c'est de recréer en fait des nouveaux lieux, des nouveaux espaces où on recrée sans cesse de la démocratie. Voilà. Et que on n'est pas obligé d'utiliser des subterfuges, qu'on soit en capacité d'affronter, d'être frontalement confronté à nos propres difficultés et être en capacité de se réinventer, de réinventer la démocratie au quotidien. Si on ne réinvente pas la démocratie au quotidien, c'est une démocratie vieillissante, croutissante, qui saucifie, qui se calcifie, voilà, et qui nécessitera pour faire bouger des lignes, du lobbying et du subterfuge. Et enfin, il me semble que pour rejoindre le smart power, on sent des choses sur les territoires qui sont prometteuses. Alors que ce que d'aucuns comme Corneloup, sociologue à Clermont-Ferrand, appelle la transmodernité, c'est qu'on est dans le co. Voilà. hein, coopération, co-construction, co-élaboration. Tout ça, c'est autre chose que d'être dans la tendance. Hein. C'est le début de comprendre qu'effectivement, peut-être que l'effet rhizome, il apporte des choses et il n'est pas si mal que ça. Et ce que l'on voit apparaître ici et là, en tout cas, c'est à chaque fois une prise de risque. Et notre système fait que nous sommes bien élevés à ne pas vouloir prendre de risques. Voilà. Il y a aussi une forme de paresse qui fait qu'on ne veut pas prendre de risques. Et on essaye de travailler, nous, en tout cas au niveau du collectif Ville Campagne, avec les élus, avec les technocrates, sur cette capacité à préserver au niveau de l'action publique de l'inventivité, de l'expérimentation, qui rassure en fait les élus, les techniciens, les acteurs, les socioprofessionnels à s'engager vers des pistes qu'ils ne connaissent pas, et donc de pouvoir explorer, et donc aussi de pouvoir avoir le droit à l'échec, on va dire. Et sans cette capacité à se sentir un peu sécurisé, on sent qu'il y a tous les ingrédients pour de l'immobilisme et pour du quant à soi, et finalement une forme de on ne bouge pas et de paresse de droit à la tranquillité, quoi. Tant pis si y a la crise. Voilà un petit peu voilà. Et pour finir, Jackie, pendant que tu te lèves, je pense que tout ça, si on n'est pas en capacité d'être dans une démocratie qui est capable de se transgresser, d'entendre les colères des uns et des autres, on n'arrivera pas trop à faire bouger les lignes et on sait que les lobbies continueront à gagner. Mais les lobbies, ça ne restera qu'une partie, hein, de l'humanité. Bon, voilà. Vive l'utopie.
Tu vois, je crois que tu as apporté la réponse à ta question première. Donc, parfait. Oui. Tu as fait la question et les réponses en même temps. Je voudrais juste que Alexis aussi, peut-être, témoigne de la démarche qu'il a actuellement sur les terres créatives de Charente.
Alors, oui, très modestement, donc Alexis Durand-Janson, facilitateur de projet dans le cadre de l'agence Primaterra, et puis également cofondateur et animateur d'un certain nombre d'associations qui cherchent justement à la fois à décloisonner et mobiliser, tout en influençant à notre manière aussi d'autres pratiques, notamment professionnelles, dans le cadre de l'aménagement des territoires, notamment. Et dans ce cadre, on a cherché à créer une sorte d'outils, de méthodes sur les territoires et notamment dans les Charentes, permettant de faire rencontrer, de valoriser des initiatives très variées, le plus souvent privées, citoyennes, de faire côtoyer, de valoriser oui ces projets et puis surtout de faire émerger des passerelles de collaboration, des actions de travail collectif. Et voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire par le biais du réseau expérimental Charente Terre Créative, donc Charente avec un S déjà, pour éviter le cloisonnement administratif, voilà, qui est très sensiblement présent justement entre la Charente et la Charente-Maritime, et en se réaxant sur un axe culturel, historique, géographique, qui est le fleuve Charente, qu'on a tendance un peu à oublier dans le cadre des politiques territoriales. Et donc, dans ce sens, voilà, on a monté un premier atelier rencontre avec des interventions de porteurs de projets variés, certains simplement en train de se lancer avec un certain nombre de ressources, des idées, d'autres avec déjà une expérience relativement importante. Des tables rondes qui sont formulées autour des moyens de faire émerger des projets créatifs, des moyens d'organiser aussi des projets innovants. La question de l'organisation de l'innovation, c'est quelque chose qui était relativement complexe à aborder, mais qui a permis de produire quelques idées. Et puis on va continuer comme ça toute l'année à travers les territoires. Ça va se faire donc en Charente d'ici le mois de mai, étant donné qu'on a aussi d'autres membres au sein de la structure qui sont en Limousin, et ben ça va se lancer aussi en Limousin avec un programme riche en Île-de-France également, où on est en train de lancer en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, un laboratoire d'expérimentation croisée. Donc croisée à quel niveau économique? Déjà, d'économie plurielle, notamment autour de la question de la rue marchande, et notamment la complexité notamment de l'activité des BIF. Hein. On a les puces de Saint-Ouen qui sont à côté, qui sont très formelles, très structurées. Et puis à côté de ça, on a tous ces chiffonniers des temps modernes qui provoquent, qui sont dans une économie du déchet, malgré tout, qui provoquent un certain nombre d'économies qui ont des impacts environnementaux, sociaux. Donc voilà, il y a des réflexions comme ça qui se font avec des chercheurs indépendants, notamment engagés dans des méthodes de recherche-action qui vont produire de l'idée dans le cadre de programmes pluriannuels. Voilà, il y a des réflexions sur l'espace public, les moyens d'utiliser ou d'employer l'espace public pour tester de nouvelles idées, notamment entrepreneuriales, mais pas que, en termes de maîtrise d'usage, notamment comment cohabiter sur l'espace public, comment se l'approprier, comment le gérer, comment l'exploiter, et puis voilà, donc des ateliers rencontres, des workshops aussi organisés, et puis bien sûr le troisième niveau d'action de Terre Créative, c'est de développer une sorte d'incubateur de projets citoyens. Donc grand mot, pas simple à réaliser, mais l'avantage c'est que ça vient de démarrer depuis en fait la rencontre avec Monsieur Deniol notamment et ces fameuses journées d'automne créativité et territoire. Il y a déjà des premières idées de passerelles. Voilà, j'ai à côté de moi Patricia Audebrand qui fait partie de l'association Les Îles en Poitou-Charentes, qui cherche aussi à favoriser de la coopération notamment économique sur les territoires et en Nord-Charente plus particulièrement. C'est pas une mince affaire. Il y a des personnes qui sont présentes sur les territoires qui cherchent à développer ça. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, on a lancé une idée, il y a un projet qui est en marche et l'avantage c'est que ça mobilise. Merci.
Merci Alexis. Bon, vous pouviez.
Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je suis d'accord sur la réflexion, mais pas forcément sur son expression ou ses conclusions, en totalité du moins. La première chose, le pouvoir est à prendre. Et encore faut-il se bouger les fesses. Deuxièmement, pour passer au coût. Co-produire, co-agir, tout ce qu'on veut, il faut agir sur le système. Je parlais tout à l'heure de prospective et de Gaston Berger, ce qu'il appelait interpeller les institutions ou enfin les remettre en question, etc. Et pour ce faire, désolé, il faut faire du lobbying. et c'est là que je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec toi sur certains aspects. Le lobbying, ce n'est pas toxique en soi. C'est, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il y a du lobbying pour des bonnes. On parlait de manipulation tout à l'heure. Quand on utilise les techniques manipulatoires pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, à supposer qu'il considère que c'est bon pour lui d'arrêter de fumer. C'est pas forcément un mauvais usage de la manipulation. Et donc c'est vrai dans bien d'autres circonstances. Et là, il y a une petite confusion que j'ai notée au passage. Le lobbying ne se confond pas avec les lobbies. Et c'est très intéressant de voir comment les dictionnaires traitent ça. Ils savent tous depuis longtemps définir un lobby. C'est un groupe d'influence, un groupe de pression, un groupe de pouvoir. Par contre, le lobbying, soit ils le définissent pas, soit ils disent c'est ce que font les lobbies, ce qui n'a aucun sens. Alors l'associating, c'est ce que fait une association. Le bonhomming, c'est ce que fait un bonhomme. Ça n'a pas de... Et le lobbying, c'est une façon d'utiliser certains processus, de les analyser, de les mettre en œuvre, de les coordonner, de les insérer dans une perspective stratégique construite, etc. Le lobby, groupe de pression, ne fait pas nécessairement du lobbying. Quand il fait du forcing sans stratégie, c'est pas du lobbying. Quand il fait une pétition sans que ça s'inscrive dans une démarche construite, etc., etc. Inversement, beaucoup d'organismes font du lobbying sans être des lobbies, à commencer par les pouvoirs publics eux-mêmes, puisque les principaux lobbies aujourd'hui en France, ce sont les pouvoirs publics. Et même sans prendre des exemples sophistiqués, lorsqu'une collectivité territoriale fait la danse du ventre auprès d'une entreprise pour qu'elle vienne s'installer chez elle plutôt que dans la collectivité voisine, elle fait du lobbying la plupart du temps. Donc je voulais relativiser un peu ces éléments-là et dire, en tout état de cause, fondamentalement, le problème, c'est pas tant attendre que le système nous permette, nous donne des marges de manœuvre un peu plus grandes ou des capacités de mouvement, ou etc. C'est justement à nous de faire évoluer le système pour que nous y trouvions notre place. Et donc, je parlais tout à l'heure de se bouger les fesses. C'est un peu ma conclusion. Oui, absolument. Non, je te provoque.
Il y a une science qui est en train de voir le jour qui s'appelle l'agnostologie. C'est l'art de rendre les gens ignorants, vous voyez. Et ça, ça a été inventé dans les années 50, notamment par des lobbies, comme celui des cigarettes, où, en fait, à une étude scientifique, on payait des scientifiques cyniques ou qui aimaient l'argent, ce qui revient pas forcément au même, pour qu'ils produisent de la contre-information, de la contre-étude. Et aujourd'hui, ça s'est absolument multiplié, ce qui te fait dire, Thierry, qu'aujourd'hui, on est dans une vision plate de l'information. Il y a tout et son contraire, c'est-à-dire sans absolument aucune certitude, ni filiation, ni au niveau de la production, etc. Voilà, l'agnostologie. C'est l'art de rendre les gens ignorants, et je pense que le web...
C'est Robert Proctor à Harvard qui a développé cette idée, et d'ailleurs, il faut savoir que les lobbies du tabac ont quand même financé des prix Nobel, qu'on fait des vraies recherches, et pas que de la contre-information et des recherches. Alors, moi, je suis désolé de vous quitter, parce que je vais faire du covoiturage, et j'ai aucune influence... j'ai strictement aucune influence sur la personne qui m'emmène. En tout cas, merci beaucoup de ces échanges, c'était très sympathique.
Merci de votre présence en tous les cas, mais on va pas tarder à clôturer, sauf une question encore, je pense, et après
Et pendant que la question se dessine, Patrick Lelay, à l'époque où il était président de TF1, avait clairement dit, nous devons rendre le cerveau humain disponible pour les messages de Coca-Cola. Enfin, c'est...
Très belle phrase. Oui. Très bien. Bien, donc je reprends la parole, excusez-moi. C'est simplement pour une remarque que me fait naître l'assistance à cette séance de lobbying et d'information, n'est-ce pas, de manipulation dans le bon sens, puisque je suis venu pour me faire manipuler dans le bon sens, n'est-ce pas. Et ce quelque chose qui n'est pas important, parce que moi j'ai à peu près 25-30 visiteurs par jour, mais j'ai un site internet sur lequel j'ai mis en haut l'accès à l'ensemble des journaux. C'est-à-dire qu'il y a, ça ouvre à l'Etsy logo, et l'Etsy logo, vous avez tous les journaux de droite, de gauche, de pour, des religieux, anti-religieux, etc. Et quand on veut, on peut s'informer quand on veut, et comme on veut. Et là, c'est, je dirais, l'incitation à la critique. Je ne vais pas dire l'incitation à la révolte ou à la rébellion. Je pense que c'est important. C'est un des éléments de stagnation et d'effacement et de nivellement. On fait en sorte que les gens ne veuillent plus ou n'aient plus intérêt à se rebeller. Il faut apprendre à se rebeller. Je pense que c'est important. J'ai fait, pendant une quinzaine d'années, j'ai formé des merchandisers. Vous savez ce que c'est que le merchandising, hein. C'est le manipuler les gens par la façon dont on met les produits en rayon. Ça, quand je vois la façon dont on met les informations dans le petit écran, c'est du merchandising politique et social. Je pense qu'il faut apprendre aux gens à se rebeller et à agir. Je dirais aussi que je serais intéressé à parler avec la personne qui a son écran là-bas, parce que il faut puisqu'il faut faire de la créativité. J'habite en Vendée et je travaille avec... en ce moment, je prépare un projet pour les monuments nationaux qui sont à La Rochelle, mais qui gère Charroux, qui est sur votre territoire. Bon, et Charroux, je vais aller la semaine prochaine à une réunion à Charroux de la communauté de communes, où là, je vais entendre plein de manipulations et de cela. Et là, il y a de l'activité à faire. Il y a un travail pratique, actif à faire. Je suis tout à fait disposé à travailler avec vous.
Moi, je vais juste finir pour conclure. J'adore conclure, d'ailleurs, comme ça, ça permet d'être sûr de ce que je vais dire et de ce que vous allez penser, bien évidemment. Mais juste pour être extrêmement optimiste, moi qui passe mon temps à être optimiste pour deux ou trois personnes à chaque fois, pas jamais plus, et pas pour la grande majorité, c'est qu'au contraire, je pense que aujourd'hui, justement, le lobbying est accessible à beaucoup de gens, l'information est accessible à beaucoup de gens, et que c'est le mode d'emploi que nos citoyens n'ont pas, et que c'est ça, que nos élus n'ont pas parfois, et c'est ça qu'il faut retrouver. Mais c'est plutôt rassurant de savoir qu'aujourd'hui, on peut influencer sans être ni riche, ni puissant, ni menaçant, sans être une mafia ou une grande école de l'administration française. Pourquoi j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre? Je sais pas. Mais en tout cas, l'important, c'est ça. C'est de voir qu'aujourd'hui, on a des instruments. Et avec les nouveaux réseaux numériques, c'est bien aussi. On a la possibilité aujourd'hui de peser dans le débat public, de faire grandir les gens, de faire évoluer les gens en étant seulement malin et pas seulement en étant riche. Donc voilà. Donc la révolution, moi, je suis un vrai révolutionnaire. Hors de mes heures de service, hein, je vous rassure. Et je pense qu'on a plein de moyens de peser aujourd'hui habilement dans le débat public et dans le débat d'aménagement des territoires.
Merci Thierry pour cette conclusion. Merci à vous deux et à Camille Yalouin qui a dû partir. Merci à vous de votre présence. Et donc pour répondre un peu aussi à ta question, il y a les journées d'automne et entre-temps, on fait de temps en temps une table ronde sur des thèmes. Peut-être qu'en juin, le thème, c'est pas encore complètement terminé et déterminé, ça sera autour des musées, créativité, territoire, je n'en sais rien encore, on va en parler avec l'Institut Jacques Cartier, et en septembre, comme tu le sais, dans les Deux-Sèvres. Et c'est aussi des opportunités, comme Alexis nous l'a proposé l'autre jour, dans cette commune de Vénéran, qui était tout à fait charmante. Voilà. Donc merci à vous, et puis bon week-end, hein, qui s'annonce, puisqu'il est très ensoleillé, je crois.